Bonjour, bienvenue sur Bagro Point pour le podcast numéro 9, c'est ça ? Numéro 9.
Je suis sûr
cette fois, non, c'est le numéro 9. Cette fois dédié à la saga, enfin en tout cas au premier épisode de Virtua Fighter. Et oui, attention messieurs, il aura fallu 9 podcasts et demi pour y arriver, mais ça y est, nous arrivons enfin à notre premier jeu 3D. Il nous a fallu que 2 ans et 2 mois.
Tu dis enfin, mais tu penses que vraiment que des gens l'attendaient ?
Mais oui, des gens l'attendaient, je pense que beaucoup de gens l'attendaient. Donc cette fois-ci, comme vous avez pu l'entendre, il y a la bêtise de Wellcook à ma gauche et le bagou de TMDJC en face de moi. Et cette fois-ci, spécialement... Pour parler de Virtua Fighter, eh bien, ce n'est pas Frionel qui nous accompagne, mais bien évidemment la coqueluche de tous les lycées. J'ai nommé Atsal.
Bonjour. Le méchant de service.
Bonjour.
Et voilà, donc on va parler.
La coqueluche de tout ce qui est gameplay 3D, toute
exactement.
Façon,
Et puis aussi... de tout ce qui est amateur d'homme à mèche.
Voilà. On va commencer tout de suite parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses à dire et que si on veut tenir notre format horaire, il faudrait mieux accélérer directement. Alors, Virtua Fighter, on va commencer par se repositionner un peu dans l'époque parce qu'on va parler d'un jeu qui a quand même fait figure d'ovni avant même en sortant. Donc avant même de parler du jeu, on va recontextualiser un peu où on est, quelle année on est, qu'est-ce qui vient de sortir et ensuite dans quelles conditions on reviendra sur le pourquoi ce jeu. Et dans quelles conditions il est sorti, quoi. Donc qui veut commencer?
On va commencer, on va effectivement essayer de recontextualiser toute cette partie-là. Alors il faut savoir, vous connaissez Virtua Fighter certainement de nom, on va essayer d'en creuser le détail. On peut déjà dire que Virtua Fighter c'est Sega, que Sega à l'époque c'est pas une petite boîte. C'est une énorme structure, que ce soit sur console ou en arcade.
Une structure de loisirs, tu peux dire carrément.
Voilà, vidéoludique, et pas seulement, puisqu'il s'appuie sur des jeux arcade qui ne sont pas du tout des jeux vidéo. Enfin, Sega, c'est vraiment une énorme entreprise. À l'époque où sort Street Fighter 2 en 1991, comme pour beaucoup d'éditeurs, c'est une claque. Street Fighter 2, on l'a dit et redit, ça a complètement changé à l'époque l'ère vidéoludique. Que ce soit pour le grand public ou pour les amateurs de jeux de baston en devenir, Sega donc a eu l'envie dès le départ de créer son propre jeu de combat parce que de toute façon il y avait une manne financière derrière qui était intéressante. Ceci dit, Sega fait partie des structures qui n'aiment pas sortir des jeux pour sortir des jeux avec toute la réflexion qu'il va y avoir derrière. Donc ils ne vont pas juste pondre un jeu de combat en se disant bon, on est en 91-92, on décide de sortir un jeu de combat. Ce n'est pas du tout bien sûr comme ça que ça va se passer. Il y a plusieurs chefs de projet qui vont être plus ou moins conviés à réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait créer un jeu de combat. Et à ce moment-là, au départ, on ne parle évidemment pas de 3D, mais d'un projet de jeu de combat qui est complètement lié à l'environnement vidéoludique.
De manière générale, quoi. C'est-à-dire qu'il faut juste un jeu de combat, mais il n'y a pas plus d'idées derrière.
Voilà, ça fait partie des idées qui sont lancées un petit peu comme ça, en disant ce serait pas mal qu'on fasse notre Street Fighter.
Et puis tous les éditeurs ont mené cette réflexion-là, absolument tous, même les occidentaux.
Tout à fait. Mais c'est bien de le rappeler parce qu'il y a plein de moments où effectivement on se dit que le jeu vidéo était particulièrement japonais, en tout cas chez nous il arrivait particulièrement japonais, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres choses qui se faisaient dans d'autres pays bien sûr. Parallèlement à ça, Sega et Capcom ont toujours eu d'excellents rapports. Capcom a souvent développé pour Sega, enfin a transposé pour Sega ses propres licences à succès. Et puis quand c'était pas le cas, Sega se chargeait eux-mêmes de développer sur leur machine donc les jeux à succès de Capcom. Va arriver notamment en 1993 Final Fight. Alors on a déjà parlé de Final Fight, vous connaissez tous le jeu à succès que c'est. Vous savez que c'était au départ plus ou moins le deuxième Street Fighter 2. C'est Sega qui va donc faire sur le Mega CD Final Fight.
Oui, il faut dire que le jeu était sorti sur Super Nintendo et pas sur Mega Drive. Tout à fait. Pénaliser la console.
Ce qui avait pénalisé la console à l'époque, mais ce qui a donné la création aussi d'une autre licence de Sega à succès dont on parlera peut-être un jour.
Street of Rage, c'est ça ?
Exactement, ouais, peut-être. Avec ça serait intéressant qu'on fasse quelque chose là-dessus.
Un jour peut-être,
un
ça
jour
marche.
Peut-être.
Je note.
On fait un hors-série là-dessus. Fermons la parenthèse. À partir de ce moment-là, l'idée du jeu de baston va revenir au devant de la scène. Et puis, il y a un parallèle qui va être fait à toutes ces choses-là. Et je vais me tourner vers Atsal là-dessus. On va vous parler du coup d'une personne en particulier qui est quelqu'un qui a toujours été reconnu dans l'univers de Sega parce que c'est quelqu'un qui est à l'origine de jeux comme Afterburner, Outrun, en fait donc des licences qui ont énormément marqué leur temps, qui ont énormément marché. C'est quelqu'un qui avait une vue du jeu absolument extraordinaire et qui va se lancer de par ses études notamment, sur quelque chose en parallèle de la 2D, la fameuse 3D. Je te laisse à la salle.
Et donc cet homme, c'est
Yu
Suzuki. Donc.
Et donc c'est vrai que si on se replace par rapport à 93, ça fait à peu près 10 ans que Yu Suzuki est arrivé à Sega. Il a déjà eu beaucoup de projets à succès. Mais surtout, ses deux premiers jeux sur lesquels il a travaillé, c'était un jeu de boxe et un jeu de catch.
Ah bon, c'est ouais. Pas, parce que tout le monde le dit, c'est le mec qui a inventé la voiture en 3D.
Mais d'abord, il a bossé sur un truc qui s'appelait Champion Boxing. Et ensuite, il a travaillé sur Champion Pro Wrestling. C'est les deux premiers trucs qu'il a fait. Et ensuite, il est passé sur les titres qu'on ne connaît pas vraiment. Et après, il est passé sur toutes les licences à succès qu'on a c'est Space Harrier, Hang-On, Hot Run et toute la clique. On arrive donc en 92, donc c'était une année avant. Ils vont tester le Sega Model 1, dont Welco vous parlera tout à l'heure.
Ouais.
Et ça va vraiment être la première expérience en 3D de Sega, et surtout du Suzuki, donc il va bosser sur Virtual Racing. Et là où ça arrange beaucoup de gens, c'est que Yu Suzuki, quand il est passé à la fac, il était donc diplômé en programmation et sa spécialité c'était la 3D.
C'était la 3D, même à l'époque. Mais pourtant, tu disais que ça faisait 10 ans qu'il était chez Sega, donc il avait étudié la 3D à la fin des années 70, début 80.
Il avait bossé là-dessus, il avait vraiment. Il avait sur les. Qu'est-ce que tu veux ? On a vu le premier jeu 3D vraiment à exploiter un truc en 3D avec des polygones, s'appelait iRobot. Et c'est un truc, c'était dingue à l'époque. Je sais plus sur quelle plateforme c'est sorti, mais c'était un truc de taré.
Non, mais le truc, juste pour préciser, c'est que la 3D à l'époque, ça relève beaucoup de la recherche et développement.
Voilà.
Ça demande des puissances de calcul et des processeurs qui n'étaient pas encore créés à l'époque, où tout était optimisé pour gérer des sprites et de la 2D. Et donc, c'est un monde à recréer du niveau hardware.
Pour aller dans le sens de Will Cook, en fait, il y avait des gens qui faisaient des programmes en 3D sur rien, en fait, qui étaient à l'écrit, purement à l'écrit. En
disant, d'accord. Donc, c'était de la théorie, quoi. Ils créaient des moteurs théoriques 3D, quoi.
Si tu veux vraiment comparer sur un terme de, d'évolution de tout ce qui est plateforme, tu peux comparer à l'évolution du PC entre quand le PC était quelque chose du purement du domaine universitaire ou de la recherche,
ouais.
Et l'arrivée des PC dans les maisons. Parce qu'un jeu qui tournait sur un PC de guerre dans une université...
Un ordinateur, j'ai envie de dire, parce que...
Ouais, un ordinateur, voilà. Mais c'était des trucs qui prenaient les salles entières,
ouais, c'est ça,
ne
ouais.
Tournerait pas sur un Apple II. C'était le gros problème à l'époque. Et c'est la même logique s'appliquait à l'époque. Ils ont pu faire des prototypes de trucs, des polygones 3D, mais de là à se dire, est-ce qu'on va aller vraiment les placer pour les faire tourner, c'était pas la même logique.
Tu voulais rajouter un truc, quoi, le coup ?
Non, c'était juste pour dire ça, sur le projet.
D'accord. Et donc tu disais, donc il a fait de la théorie de moteur 3D, donc c'est l'homme, en fait, il y a... Mais, qu'est-ce qui va l'intéresser en premier ? C'est de bosser sur le... Qu'est-ce qui va arriver en premier ? C'est la 3D ou c'est le fait d'ajouter le modèle baston, en fait ?
En gros, le patron de Sega est venu le voir et il lui a fait « Bon, il semblerait que ça serait bon qu'on fasse un jeu de combat. » Donc la question, c'est « Est-ce que vous pouvez nous faire un jeu de combat ?» Et surtout, est-ce qu'il peut être bon ? Et à côté de ça, peut-il être populaire ? Suzuki lui répond « Alors, je peux très bien faire un jeu de combat, c'est pas un problème. » Fait qu'il soit si populaire que Street Fighter 2, ça, je ne peux pas le promettre.
Sachant qu'en parallèle, ça fait partie des choses que lui aurait aimé faire. On a déjà vu des interviews de lui où il disait avant de créer ce jeu, j'aurais aimé à l'époque faire des jeux de combat. Donc en fait, les deux univers, entre guillemets, de cet homme et de la demande de Sega de créer un jeu de combat vont se rencontrer. Donc tout va être fait pour qu'il y ait un jeu qui se crée autour de ça.
La logique commerciale va s'allier à la logique personnelle de Suzuki et à son développement personnel en fait en termes de travail. Quoi.
Et la direction est assez folle parce qu'en fait, le mec, s'il s'est fait, alors je voudrais faire quelque chose. Et très très vite, on sent que le truc qui l'intéresse, c'est de proposer une expérience réaliste. Ouais. Et lui, il ne va pas s'emmerder. C'est-à-dire qu'à côté, tout ce qui se fait à côté, c'est la 2D, on avait des mouvements, tu sais. On
c'est très, c'est très animation, c'est très dessin animé, en fait.
Et le mec, il s'est fait, bon, j'ai quelques idées de tout ce qui peut être, par exemple, sport de combat occidentaux, ou du monde, des trucs qui étaient connus, un peu de la boxe, et comme ça, ou des arts martiaux japonais. Mais je connais clairement rien aux arts martiaux chinois. Et le mec, il a pris un billet d'avion, il s'est barré en Chine, et il allait se faire botter le cul à Shaolin.
Ah, carrément, quoi.
Il a décidé de faire les choses en vrai, tout
et
simplement.
Et le type est allé, il a dit, ça a été super dur, j'avais des bleus partout, je me suis fait péter les côtes et tout ça, mais... Et il est revenu avec une expérience qui va finalement le marquer pendant plus de 10 ans et qu'on retrouvera dans un paquet d'autres jeux.
D'accord. Alors,
D'ailleurs, juste pour dire, parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à motion capture, à l'époque, évidemment, ça n'existait pas. Donc, c'était important que les développeurs s'imprègnent eux-mêmes des choses qu'ils voulaient restituer pour pouvoir les restituer fidèlement.
C'est amusant parce qu'on verra dans un prochain podcast, notamment sur Tekken, que Katsuhiro Arada était également lui-même judoka comme ça et que c'est, ça faisait partie de ce genre de logique. Donc toute l'approche réaliste en fait, va être de la ressentir en vrai et d'essayer de la retranscrire en fait, dans le jeu. Et c'est en ça que la 3D va être essentielle dans le.
Alors, en fait, truc, pour essayer de bien faire en sorte que tout le monde comprenne en fait ce qui se passe, Virtua Fighter, c'est un mélange de plein d'univers. Là, on vient d'exprimer le mélange du fait qu'il y avait une demande commerciale et une envie personnelle. Il y a le fait que Street Fighter 2 soit arrivé. Ça, dans tous les cas de figure, ça va se sentir dans le jeu. On va expliquer pourquoi. Il y a à côté de ça une volonté réelle d'émancipation totale de l'univers de Capcom pour créer eux-mêmes leur propre licence avec leur propre environnement. Et pour autant, vous allez voir, et on va reparler dans un court instant, que ça va être amené plein de références de ce qui existe déjà au Japon, que ce soit en termes de manga, de lecture, de références historiques. Et on veut s'appuyer sur quelque chose de réel. On parlait ici d'arts martiaux notamment. Donc c'est un petit peu ce melting pot de toutes ces idées qui va donner Virtua Fighter. Et c'est vrai que ce jeu a vraiment une ambiance très particulière qui est vraiment liée à ce mélange d'origine.
Alors, donc ça, c'est les origines. Il y a autre chose à ajouter sur la venue du jeu ou sa conception à proprement parler ?
Non, la conception à proprement parler, là, on est ici...
On est
donc,
dans les prémices.
On est en 92. On peut peut-être éventuellement parler du modèle 1 et de ce que c'est et pourquoi c'est arrivé là aussi. Il y a ce choix de la part de Sega de partir dans la 3D. On peut... je ne sais pas si tu veux parler de ça, Webcook.
Bah, on peut, ça dépend, c'est le chef qui cherche.
Ouais, vas-y, planning, vas-y, dis-moi.
Juste non, de dire que la volonté de Sega était de garder ce statut numéro 1 de l'arcade. Non pas qu'ils étaient numéro 1 partout, etc., mais Sega a toujours eu une très bonne image dans l'arcade et ils voulaient vraiment insister sur le fait qu'ils étaient précurseurs dans plein de domaines. La 3D à l'époque, c'est vraiment
c'est le
nouvel Eldorado. Y a déjà, enfin, la 2D a été bouffée, rebouffée en 92, même s'il y a des choses très belles qui vont arriver par la suite derrière. Il y a des acteurs déjà qui sont très puissants quand on parle des noms de Capcom, évidemment, même des SNK qui n'avaient pas la taille commerciale d'un Capcom étaient considérés par les joueurs comme une des structures qu'on ne pouvait pas oublier. C'était pas possible, on l'a dit et redit dans tous les podcasts, mais Sega était capable donc d'aller dans des environnements où n'allaient pas ces structures là
d'accord, parce qu'ils avaient des moyens aussi en conséquence, quoi. C'est aussi ça.
Après, il y a un truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Sega, c'est un leader du marché. À l'époque, c'était peut-être même le plus gros. Là, je n'ai pas les chiffres, donc je ne saurais pas vous le dire, mais sans doute avec Namco, le plus gros. Et accessoirement, donc, avec ce statut-là, le fait que c'est un fabricant de matériel et le fait que l'arcade sert de vitrine technologique encore et toujours, même à l'époque, à partir du moment où il y a ce phénomène de la 3D qui a émergé, et en fait, en réalité, il a commencé à émerger sur des hardware 2D, qui donc n'étaient pas prévus pour la gérer et qui avaient des rendus pas terribles, mais qui nous montrait une nouvelle expérience. Je me souviens des premiers jeux 3D sur les ordinateurs portables de l'époque. C'était, franchement, on redécouvrait l'univers du jeu vidéo avec une nouvelle manière d'approcher son environnement, de se déplacer, de gérer l'espace. Donc voilà, donc là, il y avait clairement un potentiel ludique à aborder.
Juste pour aller dans ce que tu disais tout à l'heure, Sega fait partie des seules structures à être à la fois dans l'arcade et à la fois sur les consoles de jeux. Nintendo à l'époque a plus ou moins lâché l'arcade pour se concentrer vraiment sur les consoles de jeux, alors que les autres acteurs étaient complètement arcade. Et donc,
Sega était le seul à faire ce pas en fait.
Ouais, mais alors il y a quelque chose de spécifique aussi à Sega, c'est qu'ils avaient beau être présents sur les deux marchés, les ponts entre les deux marchés étaient assez rares d'un point de vue hardware. Il y a eu des volontés de réutiliser les hardware des consoles pour les mettre dans l'arcade, mais ça a été des choses qui ont été quasi en dehors de la Dreamcast, qui ont toujours été faites a posteriori. Ce qui fait que les hardware arcade, à la base, qui étaient présents, étaient plus puissants en général que l'hardware console. Et le fait de vouloir transposer l'hardware console à l'arcade pour faciliter les portages, en fait, ça faisait une régression d'un point de vue technique par rapport à ce qu'on avait en arcade.
Oui, c'est has-been, quoi. C'est complètement...
Voilà, c'est un petit peu has-been. Et donc, soit tu as l'exemple d'un Mega Drive où c'était un hardware qui permettait de jouer aux jeux consoles sur des bandes arcade, pourquoi pas. Soit tu as l'exemple du STV sur lequel on reviendra une autre fois, où c'était, on s'est dit, on a sorti un hardware console, mais on n'a pas de quoi le supporter en arcade, et à côté, ils avaient les hardware modèles qui étaient beaucoup plus puissants, donc ça ne servait à rien de sortir des jeux sur STV.
Ok, je suis un peu perdu. Donc, on peut revenir au modèle.
Alors, revenons. Donc, à l'époque donc, on se rend bien compte des limitations des hardware 2D pour faire de la 3D. Donc, il y a des spécialistes qui commencent à travailler sur la 3D, mais c'est, bon, c'est souvent des spécialistes qui sont hors jeux vidéo et qui travaillent sur des nouvelles technologies, en fait. Et dans le cadre du modèle 1, d'après ce que j'ai lu, Sega va se rapprocher de General Electric Aerospace, donc, qui est un acteur, comme son nom le dit, de l'aérospatial, qui commençait déjà à travailler sur ces concepts de processeurs dédiés à la 3D. Et donc, on va vous passer toutes les histoires de rachat, d'évolution, de patati patata. Mais donc, ils vont partir sur un nouvel hardware qui sera 32 bits, à peu de choses près. Donc, le processeur 32, 24, 16 bits, avec toutes les histoires qu'on mélange. Avec un processeur qui sera dédié à la 3D, donc un processeur de toute première génération. C'est de la 3D préliminaire. En fait, on retrouve, avec l'arrivée de la 3D, on a une nouvelle manière d'aborder l'espace. Mais aussi, on revient un petit peu comme au début du jeu vidéo, où il faut tout réinventer, toutes les briques. Mmh. Donc, on a des rendus, au final, qui font très primitifs. On revient... je ne vais pas décrire moi-même le rendu du jeu. C'est nos spécialistes qui le feront. Mais donc, voilà. Donc, Sega a travaillé là-dessus. Le modèle 1, ce sera un prémisse, parce que c'est là-dessus que vont arriver toute la première génération de jeux 3D arcade. Donc on a parlé de Virtua Racing, il y aura Virtua Fighter, il y a Star Wars, un jeu grandiose avec une bande dédiée monstrueuse.
On sent le fan.
Ah ouais, non, mais je connaissais un gars qui allait dans son garage, j'ai joué, c'est génial.
Même quand on n'est pas fan, c'était vraiment un jeu qui en mettait plein la tronche.
D'accord.
Tu vois, tu te souviens de X-Wing sur PC, c'est la même, baffe dans ta gueule. Exactement la même.
C'est exactement ça.
Et donc
voilà, donc d'un point de vue technique, bon, on va pas rentrer dans les détails parce que ça fait toujours ennuyer les gens, mais voilà, c'est quand même, c'est un hardware qui est censé être capable de faire tourner 180 000 polygones par seconde.
Juste, il faut bien vous rendre compte à l'époque que c'est une véritable révolution, parce qu'aujourd'hui ça paraît.
C'est qu'en disant ça, on se rend bien compte qu'on oublie complètement, on abandonne la notion de sprite, parce qu'à l'époque, quand on jugeait de la capacité d'un hardware, on jugeait sa capacité à afficher des couleurs, à afficher des sprites, le nombre de sprites qu'il pouvait gérer sur ralentissement et la taille de ces sprites.
Il y avait le zoom aussi, non qui,
Ça, c'est accessoire, c'est une option, le zoom.
D'accord.
C'est un hardware spécifique aussi pour faire le zoom. Et donc, en fait, là, on se retrouve avec une nouvelle approche. Tiens, des polygones, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est des structures géométriques fondamentales qu'on utilise pour faire les rendus 3D. Et pendant longtemps, ça sera le maître étalon pour jauger de la puissance d'un hardware 3D, de se dire, tiens, il peut gérer tant de polygones que ça. Donc voilà, donc ça c'est juste, non mais c'est pour faire la mise au point sur le prémisse. Donc voilà, donc Sega a développé cet hardware là avec des jeux très très forts de base qui vont faire un grand succès et ça va être la première lancée de Sega sur la 3D, mais qui n'aura pas de répercussions tout de suite sur le marché des consoles. Même très tardivement d'ailleurs, ouais, du côté de Sega.
En fait, c'est complètement aussi bien en termes de spectateurs, enfin de joueurs spectateurs entre guillemets, qui se retrouvent à devoir juger la qualité d'un jeu, eux-mêmes se retrouvent tout nus quoi. Comme les développeurs qui ne savent rien faire, en fait, les joueurs arrivent et on leur dit, bah voilà, il faut que tu juges ce jeu, la qualité de ce jeu, sa qualité graphique, etc. Sauf que tu n'as aucun référent pour pouvoir le faire.
Voilà, c'est ça, il n'y a pas de référent.
Il n'y a pas de référent, quoi. T'es tout seul, quoi.
En fait, les références qui existent, elles sont 2D. Et il faut complètement ou les recréer ou les adapter au format 3D.
On est tout simplement à une phase où on va réapprendre le jeu vidéo. Tout simplement.
Exactement. Et Yu Suzuki, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Hatsal vous l'expliquait, du coup là-dessus, a vraiment ce côté génial, parce qu'il a réussi avec ce moteur totalement neuf à créer de vrais jeux à succès, donc de créer des jeux où les gens, au-delà de la qualité graphique qui est que s'il y a un nouvel environnement, etc., que les gens s'amusent, parce que c'est tout bête, mais on peut te mettre une claque graphique en disant, waouh, c'est magnifique, tu commences à mettre tes mains sur ton pad ou sur ton stick, puisqu'on est en parle d'arcade, et c'est injouable, et bon, au bout d'un moment, tu fais, ouais, bon, c'est très joli, mais là, on parle vraiment de jeux qui étaient de vrais jeux.
D'accord. Donc là, c'est la conception, donc on a vu le hardware, on a vu l'idée initiale, est-ce qu'on voulait rajouter quelque chose, ou on passe un petit peu, on va dire, à qu'est-ce qui en est sorti, que Virtua Fighter, finalement.
Il n'y avait pas grand-chose à dire sur le hardware, désolé.
Non, mais
c'est plus le contexte de l'époque.
Non, mais ce qui est intéressant, justement, c'est plus que le hardware, les spécifications techniques, où personne n'aurait compris, mais moi, je pense que j'aurais été paumé, ce qui est intéressant, c'est l'idée de référent inexistant à l'origine. Voilà. Quoi.
Alors, juste techniquement, on est d'accord que là, on est vraiment au début de la 3D, on oublie tout ce qui est texture, on oublie tout ce qui est... Là, on parle de polygones coloré. Hein. Voilà, c'est du brut de fonderie.
Du gros shading, voilà, basique.
Ça, tout ce qui est texture mapping, il faut attendre la prochaine.
Il n'y a pas d'ombre. Ah, si, il y en avait des ombres dans Virtua Fighter.
Si, si, oui.
Il y avait quelques ombres au sol.
Donc il y a déjà des prémices de choses un peu plus techniques.
Il y a des prémices, mais oui, là, pour la base, il faut vraiment se dire vous avez des polygones. Il y a des couleurs dessus. C'est pour ça que le jeu a très mal vieilli. Vous le regardez comme ça. Il a très mal vieilli, contrairement à la suite de la licence, qui, elle, par contre.
Vieillit très bien, tous les épisodes de la licence vieillissent très très bien, hein. C'est impressionnant.
Et le truc, c'est que si vous prenez le premier, c'est pas forcément le graphisme en lui-même, c'est-à-dire tout ce qui était couleur qui était recherché, c'était l'impression de réalisme. Et le truc, c'est tout le monde vous le dira, quand vous avez vu Virtua Fighter tourner pour la première fois, vous êtes frappé par la puissance des coups et le réalisme qui en ressort.
Bah. Est-ce qu'on peut justement passer un petit peu au jeu en lui-même, parce qu'on a parlé beaucoup de sa conception et du contexte jusque-là. On peut commencer à aborder le jeu, si bien techniquement, on en a déjà beaucoup parlé, donc c'est du polygone, donc c'est comme ça. Je pense qu'on reviendra plutôt sur les influences après, quand on parlera des personnages, à la limite. Oui. Mais on peut peut-être, justement, comme Atsal en parlait, commencer sur le gameplay, à la limite, puisque c'est au final toute une question de ressenti, de feeling, apparemment. Enfin, ce jeu, tout est basé là-dessus.
Juste avant de parler du gameplay proprement dit, sans en dire trop sur les personnages, on parlait d'influence tout à l'heure sur la création de l'environnement. Il faut savoir que les concepteurs du jeu, en général, de manière générique, vont arriver eux-mêmes avec leur propre bagage, leurs propres idées. On parlait de l'influence des arts martiaux, c'est un jeu de combat, ça semble logique, mais bah, du coup ça va pas forcément être fait dans les autres jeux d'OD, donc il y avait vraiment une volonté, on le disait tout à l'heure, de réalisme, et beaucoup de choses qui vont du coup devenir caractères spécifiques, ce qui fait que le gameplay, et Atsal va vous l'exprimer dans un court instant, va être complètement imprégné de cette idée de réalisme en général.
La grosse différence déjà, c'est-à-dire que vous attendez un jeu 3D, mais il faudra attendre quelques titres avant de vraiment rentrer dans une optique totalement 3D. C'est-à-dire que vous pourrez vous déplacer librement sur tout l'environnement. D'accord. Actuellement, c'était juste un jeu en 3D sur un plan 2D. Et la seule grosse différence, dont on reparlera juste un peu après, venait du fait que vous pouviez vous déplacer sur l'axe uniquement en vous relevant.
Ah, c'est en se relevant uniquement ?
Uniquement en te relevant, quand tu venais à presser la touche. Si tu venais à garder la touche garde, à appuyer sur la touche garde, tu venais à rouler sur le côté. Et c'est la seule manière qui te permettait de pouvoir rouler sur l'axe.
D'accord, donc le rendu était en 3D, mais le gameplay donc, de Virtua Fighter était en 2D quand il est sorti le premier.
Et sur tous les jeux 3D, il faudra attendre, et ça c'est intéressant, les deux plus grosses licences 3D de l'époque, il faudra attendre le numéro 3 avant de pouvoir se déplacer sur un axe.
Donc Virtua Fighter 3 et Tekken 3, quoi. En gros, je pense que c'est de dessus par.
Je voudrais juste du coup rebondir là-dessus, parce que là, ce qu'on va vous dire en fait n'est pas officiel dans le sens où on n'a pas de documents là-dessus, etc. Mais là, il s'agit vraiment d'un point de vue. Moi, tel que je le ressens aujourd'hui, je pense que les concepteurs de l'époque, au-delà du fait qu'ils apprenaient à gérer un gameplay en 3D, n'ont pas voulu perdre les joueurs qui avaient l'habitude de jouer dans un environnement 2D, et il fallait que commercialement le jeu soit vendeur et donc que les gens puissent s'y retrouver. C'était prendre beaucoup de risques de tout changer d'un coup. Et donc voilà, il n'y a rien d'officiel là-dessus, mais à mon humble avis, il y a fort a priori la volonté d'être resté sur un axe, c'était un choix pour moi.
C'est a priori logique, entre guillemets, quoi, parce que déjà que la claque 3D est là, la claque visuelle est là, la claque sonore est là. Si en plus tu commences à rajouter le gameplay, tu vas commencer à perdre ou effrayer les gens. En fait.
D'ailleurs, puisqu'on parle de rendu, on peut dire que Virtua Fighter a complètement scindé les joueurs en deux catégories. Il y a les gens qui vont trouver absolument extraordinaire de pouvoir jouer avec des polygones du coup qui bougent dans tous les sens, qui ne sont pas des sprites, donc quelque chose qui a l'air d'être vivant. Mm-hmm. Et ceux qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est super moche, et qui ne vont pas du tout accrocher. Mais c'est vrai en plus. Hein. Ouais. Il faut voir les commentaires qui étaient faits à l'époque en salle d'arcade, parce que si Virtua Fighter a été une claque, il y a des gens qui n'ont pas du tout adhérer. C'est vrai que comparer ça à des sprites qui ont été travaillés, maintenant on avait des pixel art qui commençaient vraiment à être vraiment de grande qualité, avec des animations qui commençaient à être vraiment impressionnantes, on peut se dire ok, mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et c'est vrai que ça fait partie des jeux qui ont scindé vraiment les joueurs.
Il y a eu un grand changement en fait dans le game design. Tu passais du perso, généralement en 2D, la logique était toujours mon perso a de la classe, où il doit avoir vraiment quelque chose qui s'en dégage.
Il a le petit détail qui fait que c'est...
En fait, son design laissait...
présager de ses coups, en fait.
Voilà, et tu avais, ça dégageait déjà sa personnalité. Mm-hmm. Rien qu'en le regardant, tu faisais « Ah ouais, tu dégages quelque chose ». Et là, t'avais, même s'ils étaient tous plus ou moins distincts, c'était monsieur tout le monde.
Ouais.
D'accord. Monsieur Venom, tout le monde. Ils avaient un, même s'ils répondaient à un certain archétype, ça reste tu.
Il y avait pas autant de caractérisation des personnages dans Virtua Fighter, en fait.
À la fois oui, parce que les références faisaient que, mais à la fois non, en fait, dans leur comportement physique.
Tu captais les références, si tu les connaissais, tu l'appréciais, mais si il te manquait les références, le personnage n'allait pas te les apporter. Exactement. Pour toi, en fait.
Et c'est ce qui va vraiment faire la distinction, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on voit plus tardivement dans la 3D, mais à l'époque en 2D, beaucoup de personnes venaient à choisir leur personnage d'abord pour le style du personnage, plutôt que par son style de combat en lui-même.
Exact, oui. C'est toujours le cas.
Et c'est toujours le cas. Et c'est vrai que quand tu commences la 3D à ce moment-là, et c'est souvent ce qui scinde en fait, qui fait vraiment la différence entre les deux types de joueurs, on vient souvent sélectionner nos persos uniquement pour le style de combat. Et on n'en a rien à foutre de savoir à quoi ils ressemblent.
D'accord. Ouais, c'est l'ensemble de ses coups, de tout, qui va faire ça. Donc, est-ce qu'on peut parler du gameplay? Parce que il faut aborder ce sujet malgré tout. Alors, on va essayer de rester quand même compréhensible pour la plupart des gens qui nous écoutent.
Les bases sont super simples.
Alors, si je me souviens bien, Virtua Fighter, c'est 3 boutons.
Alors, juste avant d'attaquer le gameplay proprement dit, là, une fois de plus, Suzuki est parti sur un choix de simplification maximum. Alors, Virtua Fighter, comme on n'arrête pas de le dire, finalement, c'est comme ça, sauf que c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on va avoir un gameplay qui est ultra simpliste et accessible à tout le monde pour que le jeu soit joué par le pro-gamer, mais la grand-mère qui accompagne son petit-fils dans une salle d'arcade, etc. Donc c'était vraiment l'idée d'un truc ultra simple. Et pour autant, Yatsal va vous l'expliquer dans un court instant, c'est un truc qui n'a presque pas de limite, tellement il va y avoir de possibilités avec ces 3 boutons.
Tu peux me détailler les 3 boutons, ce qu'ils font?
D'accord. Alors tu avais un bouton pour point.
D'accord.
Un bouton pour pied. Et là, la grande nouveauté, mais qui n'est pas forcément une nouveauté, c'est pour ça qu'on va faire vite un rapprochement avec Mortal Kombat, il y a une touche garde qui arrive. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on s'imagine plus ou moins que les deux jeux ont été développés à plus ou moins dans les mêmes périodes.
Est-ce qu'on est en quelle année là, avant la sortie de Virtua Fighter? On est en
93.
En 93.
Donc on sait très bien que Japon, j'ai jamais regardé ce qui se passait à côté et on est persuadé qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait non plus de l'autre côté. Et on se retrouve en fait avec deux jeux et deux licences qui vont partir sur des bases qui sont communes et qui finalement donnent quelque chose de radicalement différent.
Et en plus, même en termes de rendu visuel, chacune est partie dans un délire qui lui est vraiment propre aussi. Quoi. Donc,
parce qu'ils ont, tu vois, pour dire, ils ont le bouton de garde, ils ont des shops qui sont encore très proches de la 2D, mais qui vont finalement venir à changer. Et surtout, le truc, c'est les inputs qui, d'un côté comme de l'autre, sont très influencés par les beat'em up arcade. Tu te fais plus chier à faire un quart de cercle où tu vas devoir faire ton shuriken et vraiment passer ton truc just slam pour le passer. Là, c'est plus à se dire, ben, je vais faire avant-point, je vais faire avant-avant PK. Ou d'autres trucs comme ça, et là ça va te faire une différence.
Et c'est le royaume du command move.
Ouais, exactement. Ouais. Et d'un côté comme de l'autre, en fait, les jeux se rapprochent. Ça donne deux choses différentes, mais d'une certaine manière, on est parti. Alors, Mortal Kombat a eu ses limites, et Virtua Fighter de l'autre côté a proposé un truc où le jeu avait des commandes simplistes, mais tu te retrouvais avec un fossé gigantesque entre le joueur de base qui était content de pouvoir sortir ses coups. Et les mecs qui faisaient des tournois, qui avaient trouvé des trucs complètement fous.
Alors, est-ce que tu peux m'expliquer donc la base du gameplay? Donc, point à pied, commande move, la garde, je comprends bien, etc. Mais alors ensuite, qu'est-ce qui est le sel? Je sais qu'il n'y a pas de barre de super, il n'y a pas de mécanique comme ça, mais quelle mécanique de jeu il y a?
Les nouveautés, en fait, viennent des combinaisons. À la base, tu as pied, point, garde. Ouais. Tu pouvais venir à faire soit des enchaînements, donc un peu comme Mortal Kombat de la même manière, mais qui arrive beaucoup plus tardivement.
Donc, point, point, pied.
Tu pouvais faire point, pied, ça dépendait du personnage que tu avais. Après, on arrivait à avoir P plus K, qui donnait donc certains coups, ça dépendait du personnage. Notamment, c'était des coups qui étaient associés sur le haut du corps, donc ça pouvait être des gros coups de cou, des gros coups d'épaule en fonction de ton personnage, ou même pour être utilisé pour des chops, mais ça, on reviendra plus tard. Et tu as K et G, donc pied et garde, qui souvent sont associés à des coups de pied qui demandent beaucoup plus d'amplitude, qui sont beaucoup plus violents. Et notamment, il y avait un truc, c'était surtout pour Pai, Lo et Jackie. Tu avais souvent cette amplitude de coup de pied retourné. Le mec se tournait et t'avais vraiment même le bruit, c'était le bruit qu'il fallait entendre. C'était l'impression que t'avais un coup de vent. Le mec, il fendait le vent et ça fait.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la partie graphique, mais il y avait un énorme travail du son derrière et les bandes d'arcade étaient sorties avec d'énormes enceintes. L'environnement sonore était très important dans ce jeu également.
Et c'est quelque chose qui est resté, tu vois, dans la licence. Donc tu avais ça. Et la dernière chose. Tu avais soit donc PG, mais ça on va en revenir sur les shops, qui deviendra en fait un standard pour les shops à partir de VF2, mais qui ne l'est pas à l'époque, et c'est là qu'on va encore reparler d'influence 2D. Et il y a un autre truc, c'est la première fois où on va te proposer d'appuyer sur les 4, 3 boutons en même temps pour pouvoir faire certains trucs.
Trois boutons en même temps.
C'est pas encore suffisamment développé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va devenir, qui va prendre une place de plus en plus importante dans les épisodes suivants. Mais là, on a quelques personnages qui ont ça.
D'accord. Et ça fait quoi?
Ça dépend. À l'époque, là, c'est surtout utilisé pour des projections, ouais. Ou un ou deux coups en particulier. Mais ça ne prendra pas l'ampleur, parce que si tu veux, on fait vite fait, c'est-à-dire que plus tard, ça va devenir quelque chose pour utiliser pour changer de stance, voire même pour rentrer des coups qui vont devenir légendaires. Akira aura un starter de ses combos légendaires qui commence sur PKG.
D'accord, ok. Donc ça va devenir un command move, entre guillemets, marque de référence de Virtua Fighter, au final, les trois boutons, quoi. Exact, c'est la marque de fabrique, un
exactement.
Peu. Quoi.
Et ça va influencer une autre licence dont on parlera beaucoup plus tardivement.
D'accord, ok. Alors,
du coup, Virtua Fighter, c'est un peu le premier jeu de combat qui fait que la quasi-totalité des commandes sont à peu de choses près caractères spécifiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui soient réellement universelles à deux, trois exceptions près. Là, tu peux reparler peut-être des shops, mais dans Street Fighter 2, on sait que quoi qu'il se passe, quel que soit le personnage, si tu fais avant, point, tu chopes. C'est ouais, comme ça. Voilà.
C'est même carrément l'opposé de Mortal Kombat que tu évoques avec le bouton garde. C'est que les coups de base de Mortal Kombat sont complètement unifiés sur les persos, ouais. Mais dans Virtua Fighter, ça n'a rien à voir d'un perso à l'autre.
Mais d'une certaine manière aussi, tu prends Mortal Kombat, la chop se faisait sur avant, je crois que c'était avant LP, et c'est un truc qui est resté et qu'on retrouve même ici dans Virtua Fighter. Parce que si vous voulez, à partir de Virtua Fighter 2, le standard va devenir plus G, ça va devenir le standard de shop.
De shop. Ouais. Bah donc point plus garde. Quoi.
Point plus garde. Et ensuite, on va avoir des variantes. Tu auras point plus garde neutral. Et ensuite, tu vas avoir avant, arrière, bas. Et en fonction de si ton personnage est un chopper ou pas, tu vas avoir des annexes. Par exemple, tu vas pouvoir faire, je sais pas moi, un demi-cercle vers l'arrière, un demi-cercle vers l'avant. Et ça va devenir un truc. Là, en fait, tous les personnages, en fonction de leur style de combat, ont des variantes. Donc on se retrouve par exemple avec du avant P, arrière P. Certains ont du PG, ou le PG ne fonctionne uniquement si tu es sur le côté de ton personnage, parce qu'il y a des fois ton perso... Bah,
c'est quoi le PG ?
Point garde.
Point garde. Tu peux te retrouver, par exemple, à être derrière ton personnage. Par exemple, le mec est tourné, t'es derrière lui. Tu es derrière lui, tu vas l'attraper. Ou il va être sur le côté parce qu'il s'est décalé en se relevant.
D'accord.
Après, il y a d'autres trucs où, grosse nouveauté, tu peux faire des chops en courant.
En courant ?
Ouais, Jackie, un truc où tu fais avant-avant P, qui deviendra avant-avant PG plus tard. Où tu vas, car il arrive, il saute et il te fait une corde à linge en sautant, il t'attrape avec le bout de son bras et il te jette au sol, il t'écrase au sol. C'est d'accord. Vraiment
la corde à linge.
C'est ça.
Et ça fait partie d'ailleurs des choses qui commercialement étaient impressionnantes parce que du coup tu te retrouvais à avoir des choses que tu n'avais jamais tout simplement vues ailleurs et bah, ça donnait envie. Ça fait partie des listes des fois quand tu voyais que personne ne jouait, que.
Tournait, ouais.
Voilà, ça fait partie des coups qui étaient montrés notamment et tu dis ah, moi j'aimerais bien faire ça. Mais les commandes listes n'étaient pas marquées sur la bande d'arcade.
D'accord. Alors tu disais que le jeu allait avoir quand même une énorme. Il va y avoir quand même un gros décalage entre les joueurs novices. Et les joueurs avancés, donc entre autres par les combinaisons de touches, comme tu disais, par les commandes move. Mais qu'est-ce qui va fondamentalement en fait? Il y a un système de combo, il y a un système de quoi en fait?
Déjà en fait, je veux juste terminer en fait sur les projections parce que les projections en elles-mêmes, il n'y avait pas de déchop. Comme ça n'arrive qu'après. Et le truc c'est qu'il y avait 150 variantes différentes de chop, sachant que pour vous donner de la difficulté.
150.
J'exagère.
Ah ouais, tu m'as fait peur là.
J'exagère.
Pour le coup.
Mais en gros.
150, tu perso.
C'était vraiment posé. Mais le truc en gros, c'est que un adversaire était accroupi, certains persos pouvaient te ramasser.
D'accord.
Tu avais des variantes et chaque perso avait des. Par exemple, je sais que le Pile Driver avec Wolf et avec G-Fry, tu faisais 3-3 PK. Et le mec, tu l'attrapais et t'avais un Pile Driver. Et certains personnages comme Pei avaient des chops défensives. D'accord. Un mec mettait un coup de poing, tu faisais arrière-point, t'attrapais, le te balance en l'air.
D'accord, ok. Donc, est-ce qu'on peut parler de la suite du gameplay? Donc, hormis les chops, il y avait, donc on a dit, commande move, combinaison de touches,
move. Alors, il y a des coups universels. C'est-à-dire ouais. que... Et ça, on arrive en fait sur des options offensives. C'est-à-dire qu'il y a un gros truc qui va baser le jeu, c'est les possibilités que tu as au sol.
Ouais.
Tu jettes le mec au sol et tu peux l'attaquer. C'est-à-dire que si tu fais... Ça va devenir la marque de fabrique de Virtua Fighter, le truc qui défie la gravité. Le mec est au sol, tu appuies sur haut et point, et le type il va s'envoler à 4 mètres pour s'écraser sur toi.
Ah oui, je me souviens de ça.
Ce que j'appelais les sauts lunaires, parce que par contre, c'était totalement pas réaliste du tout.
Oui, pour le coup.
Alors là, on était vraiment dans le délire.
Il sautait vachement haut, il s'est dézoomé à Dumont, ça retombait, c'était n'importe quoi.
C'était pour montrer en fait l'environnement, etc. Là, c'était une pause dans le jeu également, mais voilà.
C'est là aussi avec ce jeu où on voit apparaître une première chose qui n'était pas évidente, mais c'est ce qu'on appelle un petit peu l'abstraction 2D. un terme que j'ai découvert dans la Genshiken, où en fait, c'est-à-dire que quand on a des trucs un peu surréalistes, qui sortent de la norme, exagérés, dans un, quelque chose qui est représenté en dessiné ou en 2D,
ça passe.
Ouais. Ça pose aucun souci. Alors qu'on quand on voit la même chose dans un objet qui commence à essayer de représenter la réalité, ce qui est mine de rien le cas avec Art of Fighter, avec la première approche de la 3D, ça choque tout de suite beaucoup plus. Et ça demande un travail d'effort sur soi de se dire « c'est pas crédible », beaucoup plus fort que sur d'autres jeux faits en 2D.
Et pour rebondir sur ce que Will Cook dit, ça me fait sourire, mais c'est exactement ça. On a vu des gens en arcade, et on l'a tous déjà entendu, nous, en tant que joueurs, des mecs qui disent « non mais n'importe quoi, le mec qui peut choper là, etc. » Alors que ça choque personne que Ryu balance un Hadoken, ça c'est totalement normal. Non mais on sourit, mais il y a
non, c'est vrai, ouais.
Pour rebondir sur ce que disait Will Cook, c'est-à-dire qu'on leur propose quelque chose comme qui est très proche du dessin animé. C'est pas un problème que le mec il fasse un shoryuken qui monte à 4 mètres de haut, il redescend, il se casse pas les pattes, tout, etc. Non, pas de souci. Mais alors le type qui est capable de sauter à plusieurs mètres et de retomber sur un autre, non.
Dans Virtua Fighter, c'est pas possible.
Ça, c'est pas crédible.
Et alors le truc, c'est que tous les persos l'avaient, mais on commençait déjà à avoir des variantes de caractères spécifiques. Par exemple, Akira te sautait dessus, il te mettait un coup de poing.
Ouais.
L'autre sautait dessus, il t'écrasait avec les deux pieds.
D'accord. Bang, avec les deux pieds, ouais, jambes tendues.
Merci pour l'image.
Jambes tendues, etc. Quoi.
Et alors ça, c'était vraiment... Et tu avais deux variantes. Soit tu avais l'autre base, soit tu laissais appuyer P. Et en fait, le truc mettait plus de temps. Ça mettait plus de temps, mais tu frappais plus fort.
Ouais.
Ça, c'était vraiment déjà une des options d'attaque quand le mec était au sol.
Mais tu disais qu'on pouvait rouler à la relevée. Donc tu pouvais te le prendre, ce truc-là, quand tu roulais ou
ça dépendait en fait si tu avais timé correctement. Parce que tu as plus... C'est là que j'en reviens justement à ça. Ouais. Tu as plusieurs options, même quand tu es au sol. C'est-à-dire qu'avant, tu avais ton reversal, tu faisais ton shuriken, t'étais pépère, ou t'arrivais à en sortir en bloquant correctement l'attaque du mec.
Ouais.
Là, tu as même des options qui peuvent te permettre d'éviter l'attaque en elle-même et de pouvoir arriver à ton avantage ou carrément d'attaquer via une position de relevé.
D'accord.
Alors, pour rebondir là-dessus, ce qui veut dire que par rapport à ça, on disait tout à l'heure que le jeu de base était ultra simpliste, mais toutes les possibilités qui existaient dans le jeu faisaient qu'il y avait absolument un fossé énorme entre la personne qui avait pris le temps de regarder comment fonctionnait le jeu, qui éventuellement s'était procuré des docs, parce que Sega éditait des docs autour de son jeu.
Mais oui, tout à fait.
Et ceux qui découvraient la borne, ce qui fait que l'un des problèmes que va rencontrer ce jeu, et qui va devenir aussi quelque part la marque de fabrique de Virtua Fighter, c'est que si jamais tu veux t'investir dans ce jeu réellement, il va falloir que tu taffes beaucoup, et vraiment que tu t'investisses dans les personnages. Déjà dans le premier. Ce qui fait que les gens qui avaient l'habitude et qui avaient digéré un gameplay 2D proprement dit, style Street Fighter-like, qui se retrouvaient à jouer un Fatal Fury, qui se retrouvaient à jouer un Art of Fighting, qui se retrouvaient à jouer, etc., retrouvaient des choses, ce qui fait que c'était pas un problème. Même s'il fallait tout réapprendre, c'était par rapport aux bases, entre guillemets, là encore, de Ryu ou de Ken, on en parlait dans les podcasts précédents. Là, ils pouvaient pas arriver avec ces armes-là. Et les types qui commençaient à être réellement bons à certains endroits n'avaient pas forcément envie de prendre le risque de repartir de zéro et de se faire battre par des gens qui ne les auraient jamais battus dans les autres types de jeux.
Ça, c'est un truc éternel, ça existe encore aujourd'hui. Hein.
Mais pour vraiment donner la différence, et on l'a vu, si tu veux, on le voit, quand les joueurs de 2D passaient sur la 3D, ça se voit encore maintenant. Les joueurs de 2D, ils se sentent à poil s'ils n'ont pas un shuriken reversal à la relevée.
Ouais, c'est vrai. Donc tu voulais parler des options de défense, de relevé. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait quand on veut se relever?
En gros, pour te relever, tu pouvais rouler vers l'arrière. Ouais. En suffisant, il fallait juste que tu appuies vers l'arrière. Tu pouvais te déplacer sur le côté. Donc en roulant, il fallait appuyer plusieurs fois sur garde. Tu pouvais venir à mettre une balayette en tournant, c'est-à-dire que tu faisais garde pour pouvoir rouler et tu pouvais appuyer sur K au bon moment et tu faisais une balayette.
Qui était celle-ci universelle, parce que tous les personnages l'avaient.
Ou tu pouvais tout simplement te relever.
D'accord.
T'appuyer sur O. Ah, et la bonne truc. Et en fait, alors, il se relevait d'une manière très particulière. C'est que, tu sais, c'est ces trucs très acrobatiques et c'est un truc qui est resté dans la série, même si maintenant, plus tard, on a eu un truc pour le Quick Rise. Tu viens à... en gros, il est sur le dos, il va rabattre les jambes vers l'arrière et va remonter de manière acrobatique.
Ah oui, ça, oui, je vois.
Ouais. C'est devenu le truc emblématique.
D'accord. Mais alors, j'ai une question toute bête, parce que là, vous m'expliquez. Ça me paraît à la fois très complexe et à la fois très archaïque, en fait, tout ce dont on parle actuellement, parce que le truc, l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, tout ce qui est Street Fighter et tout, avec les tic trolls, les shops qui étaient pétés dans le premier Street ou autre, en fait, j'ai l'impression qu'on a une espèce de réponse, mais vraiment inverse Limite, on... enfin, la façon dont, de ce que j'ai compris, j'ai presque l'impression que le jeu est plus défensif qu'il est offensif. Non, mais alors, il y a quoi en offense pour, te, pour compenser ce truc-là, quoi.
Alors, Hatzal, on a déjà plus ou moins parlé tout à l'heure, il va le redire là, mais il y a une telle variété de coups, que ce soit avec les déplacements, les touches enfoncées ou pas, c'est-à-dire une touche, deux touches, trois touches, que le jeu n'est pas... N'est, en fait, tout cet aspect défensif n'existe que parce que le jeu, du coup, te permet une palette d'attaques qui est tout bonnement du jamais vu. C'est-à-dire que même dans des jeux qui allaient très très loin dans les possibilités, je pense à Art of Fighting notamment, dans ces années-là, qui proposait vraiment des choses que ne proposait pas Street Fighter 2, était à la ramasse à côté de Virtua Fighter. Il faut comprendre que on verra qu'il y a peu de personnages dans ce jeu par rapport aux autres licences qui sont sorties à ce moment-là. Mais pour comprendre ne serait-ce que comment fonctionnait un personnage, mais ça pouvait te prendre des mois.
D'accord. Et donc, en termes d'offense, vous disiez, il y a beaucoup de coups, mais est-ce qu'on se retrouve avec des systèmes de combo à la Street? Est-ce qu'on se retrouve avec des launchers? Enfin, comment ça marche, en fait, l'offense dans ce jeu?
Si tu veux l'offense, je vais juste
terminer. Oh oui, offense-moi.
j'ai juste terminé par rapport à la relevée. C'est que même à la relevée, même si tu n'avais pas le River Soul, tu avais des possibilités offensives. C'est-à-dire que au lieu de te relever, tu pouvais appuyer sur K. Il allait juste se relever, il te faisait un coup de pierre tournée dans la
touche. Oui, ça, tous ceux qui ont joué même à Tekken aujourd'hui connaissent.
Tu pouvais faire une balayette à la relevée, ou tu pouvais de toute manière faire un autre truc, c'est en fonction de la... Oui, ça c'était, il fallait savoir, en fonction de la position de ta tête par rapport à l'adversaire, tu avais des coups qui étaient différents. Et il s'avérait notamment, c'était un coup qui était venu, c'était la marque de fabrique de Jackie et de Sarah. Le perso prenait appui sur ses mains, il se relevait, et il te projetait les deux pieds dans la tronche.
Ah oui, je me souviens ça, on le voyait aussi dans le turn, pendant la démo du truc, tu voyais tout le temps...
Alors, sinon, donc,
en
offense pure et dure, tu as un truc qu'on a retrouvé aussi dans Mortal Kombat, c'est le système de juggle.
D'accord.
C'est-à-dire que tu avais certains coups qui te permettaient de pouvoir lever l'adversaire et de pouvoir continuer. Alors, il y avait des persos qui étaient des spécialistes pour ça, notamment le spécialiste qui, je crois, qui avait les juggles les plus longs, sur le 1, c'était Low. Mm-hmm. Qui, à partir du moment où il pouvait te lever, je crois qu'il avait des moyens de faire des 7 à 8 en l'air. Mais surtout, c'est-à-dire que le juggle est là, mais n'est pas forcément omniprésent comme on a pu le voir dans d'autres épisodes de la série, parce que le coup, c'est-à-dire que, en gros, tu vois Street Fighter Turbo, où à partir du moment où t'avais l'impression que en 3 coups tu pouvais refaire le match, le jeu te propose la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des fois tu mettais 3 galettes et le mec il perdait 50% de la barre de vie.
D'accord.
Et à partir de là, on s'est retrouvé donc avec tout un système d'offense qui change la donne. Tous les persos ont des styles différents, et ce qui fait que finalement chaque perso aura une manière différente d'être appréhendé. Il y a un perso qui va te rusher, un perso qui va plus attendre de pouvoir te choper, parce que quand tu prends une chope,
ça fait très mal.
Ça fait extrêmement mal. Et il y a des fois, tu pouvais, en suffisamment de timing, tu pouvais placer 2 chopes d'affilée avec certains persos.
Ce que j'ai envie de dire, c'était presque un jeu de chope à certains moments, Virtua Fighter, pour de vrai.
Et pour vous donner une idée, il y avait un truc de dingue, c'est-à-dire que les distances de chope en fonction des persos étaient différentes. Et notamment, je me rappelle que Jackie avait une portée de chope qui était affolante. Et il y avait un truc qui était devenu une arme de tueur, ça on appelait ça le punch throw. Tu mettais un coup de poing. Et là, en fait, la particularité de Virtua Fighter sur les 3 premiers coups, sur certains coups, quand tu faisais un standing punch, tu avançais.
Tu avançais quand tu faisais un standing punch.
Tu avançais, tu avais ton pied avançait un petit peu, tu avais un petit déplacement. Ce qui faisait que t'arrivais à être à portée. Il y a des fois, en fait, si ton adversaire était plus gros, t'avais juste à faire standing punch, tu t'apportais, tu collais une chope à l'intérieur.
Waouh, c'est cool ça. Et système de juggle, donc sinon c'est classique, c'est-à-dire c'est launcher, c'est un combo et puis voilà.
Alors, classique oui et non, parce que si tu remets les choses dans le contexte à l'époque, tout à l'heure tu disais oui, il y a des choses que tout le monde a vu ça dans Tekken. Là à l'époque Tekken, on est d'accord, n'existe pas. La relevée et le coup de pied fort, ça n'existait pas dans aucun jeu. T'avais aucun jeu 2D qui proposait qu'un mec se relève tout de suite et te mette un coup de pied, ça n'existait pas.
En gros, le truc c'est quand le mec était en l'air, quand tu l'avais projeté. C'est là que c'était marrant, contrairement à quand le gars sautait pour t'écraser, t'avais l'impression que le mec était très lourd.
Ouais.
Tu lui mettais vraiment un coup Akira avait un truc où tu mettais un gros coup d'épaule et tu sentais que le mec, il y avait une lourdeur. Le type prenait, il était cassé, mais vraiment brisé.
C'est ce que Suzuki cherchait quand
il était vraiment brisé en l'air. Et c'était ça. Donc le système de juggle et de combo aérien sera beaucoup plus développé plus tard, parce que les persos, même si ont une palette de coups limitée par rapport à ce que ça deviendra plus tard, mais déjà on avait ça. Et entre le système de chop,
juste pour dire que le juggle c'est un truc niveau abstraction qui demande aussi beaucoup d'efforts, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Mais ça peut frustrer certains joueurs parce que c'est quand même un sentiment d'invulnérabilité.
De
vulnérabilité, par contre. Ou injuste. C'est-à-dire qu'on t'a mis un coup, on t'a mis en situation où tu peux absolument rien faire, tu subis, et t'as pas l'impression d'être en situation où tu devrais le subir. C'est nouveau.
D'une certaine manière, je veux dire, Mortal Kombat proposait la même chose.
Ouais, mais là, on est dans le contexte japonais, en fait.
Mais c'est un vrai truc qui va devenir une norme dans certains jeux.
Voilà, mais au début, ça peut poser des problèmes aux nouveaux joueurs.
En 2D, qui vont proposer le air-reel et tout ce qui est air-combo, et ça va devenir une sens, et c'est la même, quoi.
Juste pour rebondir sur ce que vous dites tous les deux, et c'est très intéressant, on parlait tout à l'heure du fait que Mortal Kombat et Virtua Fighter étaient à peu près arrivés dans les mêmes eaux par rapport à cette histoire de Juggle, justement. Il faut remettre effectivement aussi dans le contexte qu'à l'époque, que ce soit au Japon et du coup en France, où on était, c'est vrai, des bouffeurs d'animation japonaise, ou etc., tout ce qui ne venait pas du seul japonais était considéré comme inférieur. Et c'est vrai qu'on a très peu fait attention à l'époque à des jeux comme Mortal Kombat qui était pourtant un vrai concurrent à Street Fighter chez nous.
Hein. Alors, il marchait bien chez nous, Mortal Kombat.
Oui, ce que je dis, qui était un vrai concurrent. Mais grosso modo, les gens qui jouaient vraiment, qui commençaient à taffer leur jeu, te disaient bah non, moi je joue à Street Fighter parce que je suis un vrai. Voilà, je n'ai pas joué à Mortal Kombat. Et du coup, effectivement, il y a plein de joueurs qui sont passés à côté de beaucoup de choses que proposaient ces jeux-là. Et du coup, là, ici, on parle de Virtua Fighter, parce que ils étaient habitués en fait à quelque chose qui était leur environnement en fait. Et tu parlais de la frustration de se retrouver en l'air et donc qu'il y ait trois ou quatre coups et de pas pouvoir se défendre. C'est des choses que tu ne retrouvais absolument pas évidemment
ailleurs
dans les jeux de dés. Ouais. Et comme le disait Wellcook, il fallait apprendre. Ça faisait partie du jeu.
D'accord. Mais ça va être un problème, ce que tu viens de me raconter là, par rapport à la frustration. Enfin, ce que Wellcook disait par rapport à la frustration et toi par rapport au juggle, c'est un truc comme tu disais qui va devenir standard. Mais ça va devenir aussi une problématique de game design pour les créateurs de jeux de baston. De réussir à équilibrer le rapport plaisir à faire le combo et le rapport frustration à se le prendre.
Si tu veux, on va refaire un parallèle tout à l'heure quand on va vraiment distinguer tous les personnages. C'est que ici, l'objectif n'est pas forcément d'arriver à faire du gros juggle et de pouvoir porter les mecs. On n'est pas dans Tekken 6, tu vois.
On n'est pas dans Tekken 6.
Le truc, c'est plus de se dire que on va vraiment sentir le truc, c'est-à-dire qu'on n'a pas des combos qui font 1000 dégâts, qui ont je sais pas combien de hits. C'est plus le dire que t'as un style réaliste et que t'as des combos qui sont des enchaînements de base où tu fais 2 hits. Je veux dire, Akira, c'est coups de base, enchaînement les plus longs, c'est 2 hits.
C'est 2 hits.
Ça devient plus long dans les autres jeux, mais là, les plus longs, c'est PK, je crois PPPK et avant KK.
Voilà, donc c'est tout bête quoi. C'est juste un. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur le gameplay?
Sur le gameplay, oui, c'est les coups sautés.
Rapidement, s'il te plaît.
En gros, va rapidement. J'ai demandé confirmation et en fait, Virtua Fighter est le jeu qui a inventé le hop.
Ah bon? Le hop? Le hop, donc le hop, c'est quoi le hop? Vous pouvez l'expliquer?
C'est un saut court. Il suffisait que tu appuies rapidement sur saut et tu venais à décoller un peu du sol.
Tu faisais un petit saut, quoi.
Tu faisais un petit saut, tu avais des coups qui étaient applicables à ce niveau-là. Alors souvent, c'était pas très utile parce que les coups mettaient. Mais une éternité à sortir. Mm-hmm. Et tu te prenais un stem punch dans la tronche direct. Tu te faisais calmer. La particularité, par contre, c'est que ça touche un adversaire accroupi.
C'est des choses qu'on va retrouver plus tard dans les licences SNK, effectivement, mais à l'époque, pour moi, sauf erreur de notre part, c'est le premier jeu de combat proposé vraiment, en fait.
Le petit saut, tout à fait. Qui va devenir ensuite une marque de fabrique d'autres jeux qui sont très connus pour ça, en fait. Exactement. C'est ça qui est amusant.
Et à côté de ça, tu avais la possibilité de pouvoir sauter, mais beaucoup plus haut. Et c'est ça, il y a des fois, il y avait une question, les mecs parlaient de distance jump ou de long jump. Il y a des fois, tu étais à l'autre bout de l'écran, tu pressais saut, tu traversais tout l'écran. Tu défiais les lois de la gravité.
Voilà, le truc est totalement irréaliste, on en parlait tout à l'heure, qui n'aurait pas choqué dans un jeu 2D, entre guillemets.
Et t'avais des coups comme ça qui étaient dingues, mais je veux dire, il y avait des coups spécifiques, notamment quand tu laissais appuyer haut et t'appuyais sur P, tu faisais une sorte de karaté chop. Tu sais, quand les mecs frappent comme ça.
Ouais, avec le dos de la main, enfin, avec le dos de la main, il casse les briques.
Le type, il saute.
Comme Matt Koto.
Non mais le type il sautait, il mettait un coup de poing, mais en plus il tournait sur lui-même, il faisait un salto, tu sais, en mettant un coup de poing, et tu faisais bon, ok.
Ok.
Donc ça c'était le petit saut, le coup marteau, il mettait un coup de coude. Et après t'avais ce qu'on appelait le overhammer, où c'est justement le truc où il faisait son espèce de saut périlleux, mais là fallait faire up forward, donc t'appuyais sur, c'était saut plus avant, donc diagonale c'est 9.
Ouais, bon bref.
Dans l'autre truc, tu avais la même chose avec les pieds, le dropkick, que tu pouvais faire dans les deux directions, c'est-à-dire maintenant arrière ou haut. Et le mec envoyait les deux pieds vers l'avant, mais soit il faisait un salto vers l'avant, soit il faisait un salto vers l'arrière et te mettait les coups de pied en faisant l'autre tour. C'est des trucs qui servaient absolument à rien, mais tu décollais à 5 mètres et tu faisais ça dans les airs.
C'est un peu grand guignolesque, la façon dont il le décrit.
Non, mais c'est, alors, très honnêtement, ça faisait grand guignol. Et on pour rebondir
ça
sur.
Ça fait
sur...
aussi grand spectacle. Hein. Il aime bien ça, Yusuzuki, dans ses jeux, en mettre plein la gueule.
Mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu parlais de la difficulté qu'on avait à rentrer dans ce jeu, dans le côté réaliste. Là, on se retrouvait avec un environnement qui te proposait quelque chose d'ultra réaliste. Et à côté de ça, t'avais des trucs totalement pas crédibles. Et ça servait d'argument, justement, aux gens qui disaient non, mais regarde, c'est nul.
Parce qu'il disait, on peut le faire si on veut, c'est juste qu'on n'a pas envie, mec. Ouais. C'est juste ça, quoi. Bref, donc voilà, niveau gameplay, on a fait le tour ou il reste une dernière truc?
Ensuite, il y a un truc, c'était un backflip. C'est-à-dire qu'en tant que mouvement universel, il y avait trois persos qui ne les avaient pas, c'était Akira, G-Fly et Wolf.
Alors, c'est quoi le backflip?
Tu faisais 7K.
7K, c'est quoi?
Diagonale arrière haute.
Ouais.
Et
kick.
Ton perso. Alors, il y avait deux variantes. Soit ton perso faisait un saut périlleux arrière, salto en mettant un coup de pied. Ça deviendrait une marque de fabrique qui sera notamment pour Jackie et Sarah plus tard.
Ouais.
Et il y aura aussi Pai et Lao qui ont une variante différente où en fait ils font une. C'est pas un salto, ils font un flip.
Un flip, tout simplement. Un saut en arrière. Quoi.
Et il me semble que Kage aussi a une variante qui deviendrait différente aussi par la suite. Mm-hmm. Donc on a ça. Et deux,
c'est une option défensive ou
offensive? Bonne question.
C'est les deux. Parce que certains combos, notamment avec l'eau, se terminent avec des. Tu peux les terminer avec ça. Pour les persos qui viennent à faire un saut périlleux, souvent c'est plus une option défensive ou un finisher de combo. Ça dépend du truc. Ces options-là se développeront dans les prochains Virtua Fighter. Ça prendra une ampleur beaucoup plus importante. Et avec Pay et Low, pareil, ça deviendra. C'est déjà présent là, mais ça deviendra beaucoup plus important plus tard.
Il y a déjà plein de bases de gameplay.
Ça devient des finishers de combo, voire même un mix-up pour terminer un combo. C'est-à-dire que tu termines ton combo de base, par exemple, tu vas faire PPPPK ou PP avant PK, c'est des trucs comme ça qu'on verra plus tard. Et le K, en fait, soit tu peux faire Baka, il fera une balayette, ou il fera son salto arrière.
D'accord.
Juste d'ailleurs pour boucler la boucle là-dessus, on pourra dire qu'en 94, Griff dans Street Fighter 2 avait ses flips normales plus sa flip qui allait vers l'avant et qui donnait un coup de pied. On retrouvait exactement dans Street Fighter.
Le dernier point, c'est vraiment ça. Il y a deux points importants. Il y a un coup universel qui va être pour tous les persos qui dégagera plus tard à partir du moment où on arrivera à mettre de la profondeur. C'était ce qu'on appelait le rear kick. C'est coup de pied crocheté. Tu faisais 3K.
Ouais.
Et le perso faisait un coup de pied crocheté.
Tout le monde faisait
un coup de pied crocheté. Et le dernier point important, c'était la feinte. Quand tu faisais K,
ouais,
tu appuyais sur garde, tu avais l'animation de ton pied qui se levait, tu appuyais sur garde et reposais son pied. Et ça deviendra la base d'un des coups les plus difficiles à faire de toute la série de Virtua Fighter, qui est le launcher. Coup de genou de Akira parce que c'est un truc Just Frame à faire.
D'accord. Et ça, c'était donc, mais tous les persos pouvaient donc cancel leur truc, donc ça donnait un jeu de feinte.
C'était un élément très important du gameplay. On parlait tout à l'heure de la profondeur de jeu, c'est-à-dire que quand il y avait deux joueurs qui jouaient face à l'autre, qui étaient vraiment des joueurs plutôt haut niveau, on se retrouvait à se dire ok, bon là il attaque, je garde ou je me déplace vers l'arrière ou je flippe ou etc. Puis en fait, non, il t'a feinté. Il a lancé la jambe, finalement, en fait, il t'enchaîne un coup de poing qui te rapproche et il va te saisir. Donc, ça permettait vraiment d'élargir radicalement, en fait, l'environnement de jeu. Et même si on était bloqué sur un rail, entre guillemets, parce qu'on était sur un gameplay type 2D, il y avait une profondeur dans le gameplay qui était absolument énorme.
Donc, tu avais système de feinte, tu faisais le système de backflip, le système de machin. En fait, tu avais une quantité d'options qui.
Sur trois touches.
J'ai du mal. Je vois ton exemple est assez probant. Au final, mais c'est vrai que j'ai du mal là maintenant quand on en parle, parce que bon, j'ai pas le temps d'y réfléchir beaucoup, mais la façon dont on prend toutes ces options qu'ont au final beaucoup à voir ensemble et pas en fait qui sont toutes explicables séparément, ça donne une espèce de soupe. Putain, faut en sortir quelque chose, quoi, quand même.
C'est exactement ça.
Parce que là, j'ai du mal à imaginer tout ce qu'on peut faire avec tout ce que vous venez de m'expliquer.
Ce qui a pénalisé le jeu pour moi. Voilà. Ça fait partie des. Virtua Fighter n'a jamais été une grosse licence dans le sens où il y a beaucoup de joueurs qui jouent à Virtua Fighter. Il y a beaucoup de joueurs qui le connaissent.
Ouais.
Mais il y a très peu de gens qui le pratiquent réellement.
Ouais. Combien ils jouent,
quoi. Encore moins à haut niveau.
Ouais. Ouais. Les joueurs
Non, mais bien sûr que. Mais ouais. Ça
parce
fait
que là, même moi je me sens, alors que pourtant on le fait à l'audio hein, là, mais le podcast sans le jeu qui tombe, même moi je me sens un peu perdu, tu vois, dans les notions de gameplay.
Si tu rajoutes à ça les options de déplacement, sachant que tu pouvais dasher dans les deux sens, tu pouvais courir vers l'adversaire, tu avais le moyen de te retourner parce que t'as les attaques qui se débloquaient quand tu étais de dos. Mm-hmm.
Ouais, c'est infini.
T'avais ça, plus le fait que tu pouvais presser le mec au sol, parce que certains persos, c'est devenu une marque plus tard, tu pouvais taper l'adversaire au sol. Les deux persos qui pouvaient le faire, c'était Akira et Pai. Mmh. Et plus tard, ça deviendra un truc où tout le monde, le mec sera au sol, mais tu pourras lui mettre un grand coup de pied dans la tronche.
Donc il ne faudra pas rester au sol.
D'accord. Okay. D'où les options défensives.
C'est le principe des Okizeme, c'est le principe de forcer le mec à la relever dans une situation 50-50, c'est tout ça. Quoi.
Bon allez, on arrête là pour le gameplay. Je pense qu'on a fait le tour globalement. Ouais, c'est super compliqué. C'est vraiment super compliqué. Moi, je suis paumé là.
Non, mais
c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est nouveau surtout.
Mais du coup, ça en devient compliqué dans le sens où le.
Je dis compliqué par aujourd'hui avec le recul. Bon, d'accord, mais c'est nouveau. Les joueurs redécouvrent la 3D, redécouvrent le jeu, ils redécouvrent le jeu de combat.
C'est-à-dire que c'est un vrai jeu dans lequel on a mis beaucoup de choses, et tout en proposant au départ quelque chose qui était de dire voilà, c'est un jeu qui est ultra simple. Parce qu'effectivement, si t'appuies pied, ben, y a un pied, c'est point final. T'appuies point, il y a un point final. Dire,
ouais. Mais après, c'est le retour à la base de la philosophie de l'arcade, un gameplay accessible mais profond.
Voilà. Tout à fait.
Mais c'est vrai que moi, je suis pas un joueur 3D pur. Par exemple, je sais jouer un peu à Tekken, je sais jouer un peu à Soul, mais j'ai jamais vraiment joué à Virtua Fighter. Et c'est vrai que rien que ça, c'est déjà.
Et tu ajoutes à ça.
Parle dans ton micro, s'il te plaît.
Et tu ajoutes à ça une nouvelle perspective.
Qui est ?
Les arènes ont une distance limitée et il y a un ring out.
Alors là, on va donc parler maintenant.
Au ring out et ensuite on enchaîne sur les personnages.
À l'environnement de jeu, Virtua Fighter va proposer d'être dans un environnement qui est à la fois ouvert au niveau de la présentation, mais complètement fermé par rapport à l'ère de jeu. Si jamais on touche le ring out, on est ring out. Et donc, on perd complètement. Cette notion-là n'existe pas.
Si on met le pied dehors, quoi.
Si on met le pied dehors.
Ça devient encore pire, c'est-à-dire que c'est pas encore exactement ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de tomber pour être considéré ring out.
Oui.
Il suffit d'être à l'extrémité de la zone. Ça sera une source d'inspiration pour Dead or Alive pour être considéré ring out.
D'accord, ouais. Donc en fait,
tu pars des sports de combat dans la vraie vie. Si t'as un terrain de combat, tu sors, le combat s'arrête.
Voilà, ouais. Mais même là, t'as la limite. C'est-à-dire qu'avant, tu pourrais dire que tu as les cordes ou quand tu as une cage ou n'importe quoi. Là, c'est le fait que t'es pile au bord, mais pas forcément dehors, et tu es considéré comme ring out.
D'accord.
Alors, ce qui est absolument hallucinant, c'est que l'ère de combat change à plusieurs reprises. Elle change en fonction de la difficulté que tu as mis du jeu. Donc, plus le jeu est facile, plus l'air est grande.
Les arènes sont grandes.
Plus le jeu est difficile, plus les arènes sont petites. Et si jamais t'enquilles les draw games, eh bien, à la fin, en fait, on te propose une sorte de deathmatch où l'air est toute petite.
Elle fait un 16e. Un 16e de la taille de base.
De la taille de base. Ce qui fait que le ring out, il est quasi obligatoire.
En fait, le premier qui envoie l'autre, c'est fini, quoi.
C'est exactement ça.
C'est marrant comme truc, ça. D'accord. Alors, on a parlé en début de podcast de la caractérisation des personnages, des influences, etc. Moi, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Et entre autres, qu'on parle un peu des personnages aussi, ce qui sont 8, vous m'avez dit.
Voilà, 8.
Qui sont 8.
Enfin, 8, 9, si jamais tu comptes.
On va parler des 9. Alors, on parlait tout à l'heure, on expliquait le principe de la caractérisation, donc des influences, etc., de la différence avec la 2D. Donc,
à la fois quelque chose de très neutre.
De très neutre,
et à la fois de très marqué.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un exemple, commençons avec un personnage qui est l'exemple total de cette règle?
Non, justement, j'allais parler à ce moment-là de l'eau, parce que l'eau, c'est l'exemple vraiment, d'ailleurs, qui sera le vainqueur dans l'histoire du premier Virtua Fighter.
Alors, il est comment
l'eau, pour ceux qui ont déjà lu un manga d'Akira Toriyama, je pense à Dragon Ball, l'eau, c'est Tao Pai Pai. Mais quand je dis Tao Pai Pai, c'est vraiment Tao Pai Pai.
C'est un clone.
Ah non, mais vous vous en rendez vraiment compte, il suffit d'une chose, c'est un truc qu'on n'a pas précisé, quand tu es sur l'écran de sélection des personnages, quand tu sélectionnes ton personnage, il y avait une gimmick. C'est-à-dire que le perso avait un rictus. Et là-haut, en fait, avait un énorme sourire. Et quand tu le voyais comme ça, tu faisais merde, c'est Tao Pai Pai.
C'est Tao Pai Pai.
Et on est vraiment à une époque où Dragon Ball est vraiment au sommet de
son charisme,
de son gloire, de sa gloire, etc. Tao Pai Pai, c'est un personnage qui est légendaire pour les lecteurs de Dragon Ball. C'est vraiment Tao Pai Pai. Et c'est tellement Tao Pai Pai que là, il y a Hatsal qui nous a retrouvé des scans d'origine de l'époque. Le personnage s'appelait Tao.
Ils avaient peur de rien.
Et il a changé deux fois de nom. Il s'est appelé Tao d'abord, ensuite il est devenu Lee pour finalement s'appeler Lao.
Donc on rappelle Tao Pai Pai, c'est un espèce de maître chinois, donc avec vêtements traditionnels, le blaze de l'école sur le torse, la queue de cheval,
même dans ses couleurs,
le jaune, le rouge et le pantalon bleu, quoi,
vert, voilà,
vert, pantalon vert, pardon,
Tao Pai Pai vert.
Donc voilà, les gros sourcils bien froncés, etc., quoi.
On a un Jackie qui est un blond avec les cheveux dressés, etc. Je vous passe la référence encore à Toriyama.
Il est en kimono, non,
c'est l'américain. Il est en veste, il n'est pas encore en tenue de pilote, là il est plus avec un débardeur rouge, chenille rouge avec débardeur rouge.
D'accord. Ouais.
Oui, on est limité en modélisation, rappelle-toi.
Carrément.
On a Pai qui sera entre guillemets un petit peu en termes de design la Chun-Li du jeu, comme c'est souvent le cas, c'est-à-dire que là une grosse référence à Street 2, d'ailleurs c'est la référence principale d'ailleurs à Street 2, je reviendrai sur le personnage de base après.
Quoi, elle est chinoise ?
Elle est chinoise, notamment.
La tenue à peu de choses près, c'est la même.
Mais contrairement aux autres jeux qui sont sortis à l'époque où on disait voilà, on rajoute la fille, eux on ont directement qui est une des en se disant, voilà, nous on met deux filles.
D'accord, donc il y a Pai qui est la chinoise qui fait du.
Justement, il y avait un truc intéressant avec ce personnage.
Parle dans ton micro, s'il te plaît.
Il y avait un truc intéressant avec ce personnage-là, c'est au niveau de la gestion de la physique. Je ne sais pas si vous vous rappelez le fait, c'est que tu lui mettais une droite et son chapeau tombait.
Ah, c'est marrant ça. Elle avait un chapeau ?
Ouais. Oui, oui.
Voilà, un perso à chapeau.
Un perso à chapeau, monsieur.
Qui tombe, nouveauté, attention.
Non, Ken Bogard, sa casquette.
Et donc mais c'est rarement un perso de jeu de combat.
Voilà. Et quand tu disais, il y avait Pai qui était un perso un peu la Chun-Li, et il y a un deuxième personnage féminin.
Et donc, on a Sarah qui est le personnage blonde, cheveux longs,
élancé,
etc., qui va devenir une référence dans beaucoup de jeux 3D, parce qu'il y a beaucoup de jeux de 3D qui vont arriver avec leur propre blonde, etc., etc.
Avec de forts arguments.
Nina Williams dans Tekken.
Et avec des graphismes des fois très proche.
Oui, voilà. En plus. Ouais.
Voilà. Et même si on reprend, en fait, c'est marrant parce que la blonde, on la retrouve aussi dans Mortal Kombat avec Sonya Blade.
Exact. Ouais.
Ah, Sonya Blade.
J'avoue, carrément. Donc, et tous ces personnages, avec quel style de combat, ça
Tu veux qu'on commence sur les styles, juste
comme ça, parce que pour donner une idée, tu vois. De...
En fait, si tu veux, Jackie et Sarah avaient du.
C'est son frère et sœur, d'ailleurs.
Son frère et sœur. Et ils font du Jeet Kune Do.
D'accord.
Le Jeet Kune Do, c'est la synthèse martiale de Bruce Lee. Et c'est là que c'est super intéressant, parce qu'à cette époque-là, c'était pas un truc qui était considéré. T'avais toujours les intégristes des arts martiaux qui étaient là, non, c'est pas traditionnel, ça pue. Et là, on arrive sur un truc, le mec, il est allé faire un stage en Chine.
En Chine, ouais.
Il a fait des styles les plus traditionnels possibles. Et il arrive à faire du filet du Jeet Kune Do, qui est peut-être une des synthèses les plus modernes.
Complètement.
Oui, parce que d'un art martial. Parce que, voilà. Ok, et alors donc Pai, c'est du art martiaux chinois, c'est quoi du kung fu traditionnel,
c'est une sorte, oui, c'est ça. En gros, si je me rappelle bien, c'est un truc qui se développe plus tard. Si tu veux, son père,
c'est un mixte en fait. Hein. Pai, elle utilise plusieurs techniques en fait de plusieurs arts martiaux d'origine. C'est du wushu de base agrémenté en fait de techniques bien particulières.
En gros, si tu veux, faut préciser, c'est un truc qui se développe plus tard. Je sais plus exactement la timeline par rapport à VF1. Mais son père, donc Lao, fait un truc qu'ils appellent ça le Koenken, c'est il frappe en fait avec cette partie de la main.
Ah oui, avec la tranche de la main.
Il frappe avec la tranche de la main. Et il a beaucoup de coups comme ça. Et ça deviendra un classique où plus tard ils vont élargir sa move list à partir de ça. Tu auras plein de mix-up basés là-dessus. Et c'est un style qui est vraiment brutal.
Voilà.
Okay. Et sa fille veut vraiment.
Cassant.
Elle veut vraiment, vraiment se distinguer de ça et passer sur quelque chose d'un peu plus. Soft et d'un peu plus, tu sais, je crois que c'est.
Plus féminin, j'ai envie de dire.
Plus féminin. Et dans l'approche, finalement, avec certains trucs où des fois elle t'attrape, elle te jette en l'air, ça se rapproche plus de l'approche qu'avait Murayu Ueshiba pour le Aikido. C'était plus le fait d'avoir de la compassion pour l'adversaire.
D'accord, ok. Alors, il y a quoi d'autre comme personnage ?
Alors, si jamais on doit vraiment attaquer les personnages, il y a quelque chose dont je voudrais parler tout de suite. Il y a un personnage qui va dégager au moment de la création du jeu et qui va être remplacé par un autre personnage.
Ça, je vous ai entendu en parler, mais je me suis bouché les oreilles pour me garder la surprise. Alors, c'est quoi cette histoire ?
En fait, parmi les 8 personnages, il y avait un personnage qui s'appelait Shiba, qui est un personnage qu'on retrouvera plus tard dans une autre licence de Sega.
Laquelle ?
C'est...
Fighter Mega Mix.
Voilà. Okay. Et ce personnage-là, en fait, qui est donc un personnage ARA, donc il y a plein de personnages de provenance plus ou moins différentes, mais c'est vrai que les arts martiaux chinois étaient quand même surreprésentés, on en parlait tout à l'heure. Il y a un moment donné, en fait, là, sous l'influence des producteurs, là, on parle bien de Sega, ils ont fait « Il nous faut un Ryu ». Parce que Ryu va nous faire venir.
Il faut un esprit bandeau.
Voilà, il nous faut un esprit bandeau.
Ryu... Il faut un référent surtout, un référent par rapport au passé.
Comme Ryu et Ken étaient des référents pour Street Fighter 1 dans Street Fighter 2, il faut un référent Ryu dans Street Fighter.
Voilà, il nous en faut un. Et c'était vraiment. Là, c'est noir sur blanc. C'est-à-dire que là, on veut un Ryu. C'est pas on veut un personnage qui. Il nous faut notre Ryu. Donc un brin. Il nous faut un brin qui fait plus ou moins du karaté, soit qui fait pas du karaté, mais qu'importe. Quelque chose qui va nous apporter cette référence. Et ils vont nous sortir la figure de proue. De Virtua Fighter qui sera là tout le temps dans la personne d'Akira.
Mais Shiba, alors, qu'est-ce qu'il dit?
Mais Shiba, il dégage purement et simplement.
Ah oui, parce qu'ils avaient prévu de faire Shiba et en fait, oui. Parce qu'on leur a dit, il faut un Ryu, ils l'ont dégagé.
Ah oui, le personnage était fait complètement.
C'est te dire qu'Akira a été implanté, mais vraiment au dernier moment.
À l'arrache.
On a retrouvé
sans
des.
Deck.
Ah non, mais.
Je vous ai ramené une image sur les premières bornes de VF. On a certaines bornes où il y a marqué Akira, mais le artwork, c'est celui de Shiba.
C'est encore celui de Shiba.
De Dieu.
Ah, mais il a vraiment
été. C'est extraordinaire comme truc parce que, quand même, Akira, c'est quand même la figure de proue que tu vas retrouver sur toutes les boîtes
toutes
de tous
les
Virtua Fighter.
Et c'est devenu la figure de proue, mais encore plus dingue, c'est-à-dire, et c'est là où ça apporte un énorme changement. Le personnage iconique de la licence est généralement un perso qui a des coups, premièrement, c'est les coups les plus mémorables. Secondement, c'est le personnage qui est un des plus faciles d'accès. Et on va se retrouver.
Et qui gagne, normalement.
Et on va se retrouver où ils nous ont ajouté le perso le plus difficile du jeu, qui devient le perso emblématique de la série.
Qui est l'un des perdants du premier tournoi. Enfin, c'est. Ils ont complètement pris. Si vous regardez le graphisme vraiment.
Tu nous tiens.
Si vous regardez vraiment le graphisme en plus d'Akira, il est brun, il a les cheveux montants, etc. On est là encore à l'époque de Sangohan dans Dragon Ball. On ne peut pas ne pas faire référence, en fait, au Sangohan adulte.
Et il a un bandeau.
Et il a un bandeau comme Ryu.
Avant Virtua Fighter Alpha. Un bandeau blanc avant même que Ryu ait un bandeau blanc dans Virtua
Alors,
Fighter Alpha.
Ryu avait déjà son bandeau blanc dans le
Ryu,
premier Street Fighter.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ah ouais, donc vraiment, c'est. Et puis kimono, et puis voilà, quoi, c'est la totale.
Donc on dégage un personnage pour remplacer par un Ryu, en fait.
C'est dingue ce truc.
Et pour te donner, là, quand je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il avait des combos très courts, en fait, il a un style. Or, les gens qui ont joué Shenmue 2 ont vu.
J'ai joué à Shenmue 2.
La boxe des 8 extrémités.
C'est ce qu'ils appellent. En fait, ils ont tout à fait un truc. En fait, il est japonais, mais il a un style chinois. Mais
il a étudié.
Mais en gros, il a la version japonaise transposée pendant l'occupation. Ils avaient des trucs qui s'appelaient le Bajikwan, un truc comme ça. Le Akiokuken, un truc comme ça. Et le style a de particularité, c'est que les combos sont très courts, mais font extrêmement de dégâts. Et notamment, c'est tout ce qui sort de position basse. Il est toujours ancré. Mais vraiment,
oui, c'est vrai que je me souviens d'un personnage mastoc, tu sais, genre le karatéka, mais contrairement à Ryu qui est quand même un peu détendu, là c'est vraiment
très félin, alors que là pas du tout.
C'est masse, tu vois, le mec, tu sens la boule de nerf.
C'est des coups d'une violence pas possible, c'est à dire que et plus ça va aller, plus ça va s'étendre. Il met des coups d'épaule, il met des coups de coude, il met des coups de genou. Et c'est le truc, il frappe dans. Tu sens vraiment quand tu joues à Virtua Fighter que tous les styles ont été pensés pour l'efficacité.
Ouais.
Et le type, il frappe, il tue. Mais vraiment, sur le coup, c'est-à-dire que tu sens vraiment qu'il tue un taureau s'il frappait avec.
Ouais, donc le perso est compliqué, mais en fait, il a quand même un style qui est. Entre
radicalement
guillemets.
Différent de celui de Ryu, et qui pourtant de base, quand vraiment les coups de base, quand tu fais qu'appuyer sur point pied, tu fais ah bah c'est bon, il y a Ryu dedans.
Et pour te donner un truc, quand je parlais de son tout à l'heure par rapport aux coups de Jackie ou de Pei qui font des vents, lui quand il frappe, t'as l'impression qu'il écrase le sol, c'est-à-dire que ça fait des boum, mais vraiment t'as l'impression que c'est une masse, le mec il est en train de c'est un 32 tonnes qui se déplace.
D'accord. Il reste quoi comme perso qu'on n'a pas abordé, parce que maintenant qu'on a vu l'histoire
donc
de Shiba,
on a fait Akira, on a fait Pai, on a fait Lo, on a Wolf. Je te laisse parler de Wolf.
On a Wolf qui, d'une certaine manière, c'est un catcheur, mais qui est vraiment représenté dans la manière la plus réaliste qu'on pouvait avoir d'un catcheur.
C'est-à-dire en slip.
C'est-à-dire, un, il a un short.
Ah.
il a donc les bottes, pareil, avec les protections.
Ou même totalement
pas forcément là, mais les protections viendront plus loin. Et surtout, il a plus un style qui se rapproche de ces catcheurs qu'on a vu. Les catcheurs qui ont commencé. Des mecs comme Mark Coleman et des mecs dans le genre, c'est les catcheurs qui ont commencé à. Les frères Shamrock. Enfin, non, les frères Shamrock étaient des lutteurs, mais ils ont fait un peu de catch. C'est ces mecs-là qui ont commencé à rentrer dans le. Et Don Fry, je crois que c'est le meilleur exemple. C'est ces catcheurs qui ont commencé à faire du combat libre. D'accord. On leur a toujours fait, ouais, le cash c'est du spectacle. Et on avait les premiers mecs qui ont gagné des trucs de base de combat libre, c'était soit les frères Grazzi parce qu'ils faisaient du jiu-jitsu brésilien, soit des catcheurs parce que c'était des mecs qui étaient déjà habitués à cogner, à faire des prises et à se battre au sol.
À prendre des coups qui faisaient très mal parce qu'on a beau dire que c'est du spectacle, il y a beaucoup d'accidents. Ça fait partie, le catch fait partie des sports où il y a le plus de fractures, où il y a le plus de. Et les mecs se relèvent avec le sourire du genre c'est spectacle, etc. Ils viennent de se ruiner un poignet. C'est des mecs qui sont très résistants.
Mine de rien, pour faire un bon catcheur, il faut une énorme préparation physique.
Tout à fait.
On retrouve cet aspect donc un peu brut de.
Un peu free fight.
Et là, donc justement, donc Wolf.
En 93.
Voilà, et le perso a pas vraiment changé. On est, je crois, quasiment au début de l'Ultimate Fighting Championships. Hein. Je crois qu'on est sur les premières
dans,
années.
Dans les timelines, oui, tout à fait.
Et là, donc, on arrive justement, si on continue sur tout ce qui est free fight, on arrive sur le perso. Justement, parce que Wolf, on n'a pas trop. Il a peu de changement de nom, donc voilà. C'est, il a un style un peu indien, il est canadien, mais souvent on l'a représenté comme une sorte de roue qui a des. Qui a des origines indiennes.
Oui, parce qu'il a toujours des peintures de guerre indiennes un peu.
Ouais, ils sont même allés plus loin plus tard dans la série en lui filant un costume secondaire où il a carrément la tenue traditionnelle de l'indien avec les plumes et tout ça.
D'accord. Village people dans l'âme.
et si on va plus loin, on a le personnage de G-Fry. Je crois qu'il est jamaïcain, si j'ai pas de bêtises.
Ouais, tout à fait.
Ah oui,
aborigène.
Il est pêcheur. C'est vraiment une masse. Et le mec, si tu veux, c'est pour ça qu'il veut participer au tournoi pour chasser un requin.
Quoi ?
Il veut acheter de l'équipement pour aller chasser un requin. Et ça va être ça. Va être
comme il a besoin de thunes.
Il va participer au truc.
Donc ça fait 5 épisodes qu'il veut chasser un requin. Quoi,
et lui, alors, pareil, est très intéressant parce que pour la première
chose. Il a toujours pas gagné, donc forcément.
Pour la première chose, il a changé plusieurs fois de nom. Et là, on en reviendra plus tard tout à l'heure. Son premier nom, c'était Dural.
Dural.
Dural qui deviendra le boss du jeu.
D'accord. Okay.
Et qui n'est pas lui.
Ce n'est pas lui.
Ensuite, il s'appellera Willy.
Ouais.
Pour finalement, il s'appelle G-Fry.
G-Fry.
Et là où G-Fry est très intéressant, c'est la même chose. On en revient à l'idée du Jeet Kune Do et du catch. Le mec, il fait du pancrace.
C'est quoi du pancrace ?
Le pancrace, c'est la première forme de free fight qui date du, je crois, 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. C'était la première forme de.
5e siècle avant Jésus-Christ ?
Oui, oui. C'était la forme. Ça faisait partie des Jeux Olympiques. Aux côtés de du pugilat qui était la boxe traditionnelle.
La vraie boxe,
qui était
ouais. Pied-point. Il y avait le pancrace, quoi.
Et il y avait la lutte. Et tu avais à côté ça le pancrace qui était toute forme de combat libre. Les seules choses que tu ne pouvais pas faire.
Qui était également enseigné dans les militaires de l'époque.
C'était la base. Ça, c'était un truc pour te dire une idée. C'est un truc qui était interdit en Europe quand la chrétienté a commencé à prendre le pouvoir.
D'accord. Ils ont interdit.
C'était trop efficace.
C'était trop efficace. t'imagines que la seule chose qui était interdite, je crois, c'était de frapper dans les couilles. Et tuer, et peut-être, je crois même, de tuer le mec sur la zone de combat. Mais tu pouvais même continuer le combat si tu lui pétais le bras. Et c'est ce qu'on a revu dans les premières formes de Free Fight quand ils ont fait l'Ultimate Championship. Il y avait des mecs comme ça, le type il voulait pas se rendre, il lui pétait le bras.
D'accord, ok.
J'ai vu Royce Gracie péter plusieurs fois les bras, quoi.
G-Fray, c'est celui qui, si je me souviens bien, qui a des dreads et juste un pantalon blanc de base, quoi. Une simplicité de caractère design qui marche très bien.
Ultra neutre.
Mais le mec, c'est une masse, il hurle et il a un style, mais pareil, c'est ça. Mais c'est d'une violence pas possible. Il a des poils en bomb slash, il prend le mec, il l'écrase au sol.
D'accord. On va terminer vite avec les persos parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti.
Allez, on se dépêche, on a Kagemaru.
Kagemaru, donc
c'est quoi ? C'est un ninja, non ?
C'est un ninja.
Ouais ! Izuna Drop !
Qui fait du. Ikien, Izuna Drop.
Tu as le Izuna Drop, ouais, ouais.
Qui donc fait du ninjutsu. Et qui lui aussi a changé, c'est marrant parce qu'il a changé de nom. À la base, il s'appelait Yagyu.
Yagyu ?
Yagyu.
Yagyu, ça me dit quelque chose.
Oui, c'est pas Yu-Gi-Oh!
Non, pas Yu-Gi-Oh! Non, mais je sais, merci. Non, je pense Yagyu, ça me rappelle quelque chose, bon, bah. D'accord.
Et qui est finalement donc devenu Kage, ou Kagemaru. Quand tu mets le nom plein, ok, pareil, ninjutsu, pareil, c'est la même. C'est-à-dire que même s'il a un style qui est acrobatique, c'est un style qui est considéré comme très efficace et c'était le truc, je veux dire, c'était des mecs, enfin, quand tu reprends les ninjas, c'était les gars qui se battaient contre, c'est des mecs qui se battaient contre des samouraïs, quoi, limite à poil, quoi.
Ouais, donc,
voilà. C'était ça, donc pareil, donc on a cette transcription de tous ces persos finalement qui ont. Ils ont un style bien propre. Qui est très. Et c'est ça souvent.
C'est efficace en fait. La façon dont vous en parlez, tout rime avec efficacité.
Mais c'est ça.
Et... En fait, c'est plus qu'efficacité, c'est aussi crédibilité, quoi. Des trucs avec lesquels tu pourrais vraiment te battre cette situation.
Et souvent, tu vois, c'est une critique qui a été faite à Virtua Fighter. On l'a fait. Pourquoi vous mettez pas des capoeiristes ? Pourquoi vous mettez pas des mecs qui font du taekwondo, de ça ? Et souvent, en fait, je me suis toujours dit, Yu Suzuki, il a dû mater l'Ultimate Fighting Championship, il a dû se faire. Même le Pride, plus tard,
c'est marrant, je me suis déjà fait cette remarque.
Il a dû
aussi.
Se dire, les taekwondoistes, on n'en voit pas où. J'ai vu des taekwondoistes se battre contre des catcheurs et les mecs, ils se faisaient laminer la gueule. Et le truc, en gros, il a dû se dire, c'est des styles qu'on n'a pas vus, des styles qui n'ont pas prouvé, du moins.
Qui n'ont pas prouvé leur efficacité en vrai combat, quoi.
Qui n'ont pas passé d'autres styles.
Il y a Sly au fond de la pièce qui me fait ça sert à rien du tout,
ça veut pas forcément dire, tu sais, que c'est des formes qui sont pas efficaces en elles-mêmes. Mais si je reprends par exemple, après en avoir parlé avec Katsuhiro Harada, Il nous rappelle, il nous en avait parlé, il nous avait dit qu'il y avait besoin, d'une certaine manière, pour montrer à ça, que certains coups aient un côté très esthétique. Et quand tu compares Tekken avec Virtua Fighter, c'est ça que tu vois directement.
Ouais, c'est ça. On va passer, il y en a un qui va être plus dans l'esthétique et l'autre qui va être un peu plus dans l'efficacité. Et le réel, bah, Virtua Fighter.
Alors, ça fait partie des choses qui vont malheureusement aussi desservir la série auprès du grand public.
Parce ce manque que de spectaculaire,
voilà,
en fait.
Voilà, tout à fait. Le grand public est plus impressionné par le Shoryuken enflammé, par exemple, de Ken dans Super Street Fighter 2.
Ou par Eddie Gordo qui donne des coups de pied en tous les sens.
Voilà, que pour parler de jeu en 3D, que par... enfin, du coup, il n'est pas encore
que
sorti
à l'époque.
Que par
Akira, qui certes tape fort, mais ne fait que 2-3 coups d'épaule, de coude. Quoi.
C'était ça, d'accord. Tout à fait. Alors, en fait, c'est comme si tu compares en fait, un vrai combat et ce que tu vas voir au cinéma. Oui. C'est-à-dire qu'au cinéma, si jamais tu voyais un Van Damme qui venait à un tout petit coup de poing dans un menton, ok, bon, il lui a tapé le menton. Alors, s'il recule le poing correctement, qui fait un coup de poing à John Wayne, là, c'est
au ralenti. C'est important le ralenti.
Avec toute l'efficacité du cinéma derrière.
Okay. Il ne reste pas un perso ?
Si, bah, il reste Dural. Justement.
Alors, on boss. Termine avec Dural dans ce cas, s'il vous plaît, parce que l'on arrive à la fin.
Donc, Dural, en gros, c'est une sorte de boss, on va dire un peu.
Une sorte de boss métallique.
Boss métallique.
Cette avant l'âme.
C'est une, en gros, c'est une carrure féminine, parce que dans l'histoire, c'est censé être la mère de Kage.
D'accord.
Et elle est faite à partir de. Alors, c'est compliqué, on va rentrer dans le truc, mais.
Et donc, elle a une texture métallique sur elle. Et c'est, en gros, c'est pas aller très très loin du principe du unique caractère, c'est plus ils ont fait un personnage qui regroupe tous les meilleurs coups de tous les personnages.
Ah oui, d'accord.
Alors on vous a déjà fait le coup dans Wordy Rose. Voilà, c'est le genre de boss entre guillemets. C'était très à la mode à l'époque et c'était très à la mode dans les mangas même en général. C'est-à-dire de proposer un boss qui soit les héros ou le héros en mieux. Ouais. C'était.
Tu as quoi en tête?
Oh bah il y a plein de.
Tu prends dans Dragon Ball, tu prends Cell, il apprend toutes les techniques de tous les autres parce que il les regarde et puis ça marche. Tu vois.
Grosso modo en fait on arrive dans le shonen, on arrive quand sur les séries qui sont un peu longues. Je fais une très courte parenthèse parce qu'on va pas s'arrêter là-dessus. Mais t'as le héros qui est de plus en plus fort, qui bat tous les personnages etc. Puis au bout d'un moment il tombe sur le mec qui est comme lui mais en mieux.
Voilà.
Et il doit se dépasser lui-même, grosso modo. Voilà. Pour
donner une idée de à quel point ce boss était différent des autres, c'est que si tu prends en fait, toutes les licences 3D, elles ont toutes cherché à se trouver un scénar.
Ouais.
À même en faire des tonnes. Et finalement, le boss change à chaque fois. Là, ils se sont pas emmerdés, c'est un tournoi d'arts martiaux. Les mecs sont là pour montrer qui est le plus fort, ou du moins pour se prouver eux-mêmes quelque chose, ou pour justement gagner de l'argent.
Ouais.
Là, déjà, les motivations sont radicalement différentes. Elles se rapprochent encore une fois de tout ce qui est beaucoup plus... une idée de combat réaliste, et il s'avère que Dural sera le boss, ou du moins même un personnage bonus que tu affronteras à la fin du mode arcade dans tous les Virtua Fighter.
D'accord, mais juste parce qu'en fait c'est juste
parce
qu'il faut un boss et parce qu'on peut le faire, alors on le fait et puis merde,
parce qu'on même limite là-dessus on doit le faire. Tu peux pas faire un jeu de combat sans boss, alors on verra que SNK le fera plus tard, mais par défaut normalement tu fais pas un jeu de combat sans boss, ça fait pas partie des stéréotypes. Et pour terminer là-dessus, on peut dire que l'histoire des personnages en fait est pas extrêmement poussée. En fait il y a beaucoup plus d'écrits sur leur style de combat finalement que sur les personnages en eux-mêmes. Il y a les grandes lignes comme dans beaucoup de jeux de combat, mais c'est pas contrairement à un SNK qu'on verra plus tard va énormément mettre d'énergie autour de l'histoire, de l'environnement, etc. C'est pas du tout le propre de ces gars là-dessus. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est que le jeu soit réaliste et s'appuyer là-dessus.
Juste une question, dans le jeu lui-même, il y a une scénarisation quelconque ou pas du tout ?
Pas du tout.
Non, en fait, il y a un truc canon. C'est-à-dire qu'à chaque nouvel épisode, ils ont désigné. C'est-à-dire que tu ne le sais pas quand tu y joues, mais au prochain épisode, ils ont désigné qui a gagné l'édition.
D'accord.
Et le premier gagné par Tao Pai Pai.
Par rapport à ça, ils ont développé quelques axes scénaristiques pour chaque personnage. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas un scénario global. Mais il y a un truc qui entoure certains personnages avec un truc qu'ils ont un peu plus émancipé plus tard. Mais souvent, c'est la trame de chaque personnage qui va faire que la manière dont elle évolue va faire arriver de nouveaux personnages qui sont liés avec eux.
Ouais, d'accord. Voilà, des personnages non jouables qu'on croise, on les voit finalement arriver. Quoi.
Non, ce ne sont pas forcément des personnages non jouables. Ce sont des personnages qui vont arriver dans de nouveaux épisodes, qui sont reliés à un personnage ou qui vont venir les aider, ou qui seront un allié ou un rival qui va finalement apparaître.
Ouais. Mais juste dans le tout premier, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de cinématique, il n'y a rien. Il n'y
a rien
de rien.
Que dalle.
C'est du jeu pur et brut. Quoi. C'est, typiquement, c'est, comme
c'est
à l'époque.
Du jeu arcade.
Il n'y a même pas les petites, les petites win phrases à la Street 2,
pour
etc.
Pour donner une idée, je veux dire, Virtua Fighter 3 à l'époque où il n'y avait même pas de pile de sauvegarde, tu devais sauvegarder sur le. C'est-à-dire que t'avais, tu terminais le mode arcade sur la version Dreamcast. Et on te demandait de sauvegarder, mais t'avais rien à gagner. T'avais que dalle à gagner. Tu terminais le truc
sur Saturn, oui.
Dreamcast,
Virtua Fighter 3. Du premier, là.
C'est pour donner un exemple. C'est-à-dire
dans le 3, en fait, tu finis le mode arcade, mais en fait, t'as rien à gagner, donc ça sert à rien de sauvegarder, en fait.
Ils s'en sont jamais, ils en avaient toujours rien à foutre. C'est-à-dire qu'en gros, t'avais ton mode. T'avais ton mode entraînement, ton mode versus, ton mode arcade, et roule.
Voilà. Bon, bah écoutez, on va terminer là-dessus. Bah, ça résume bien, je pense, un petit peu la philosophie du jeu au final. Hein,
ce qui est incroyable, c'est que ce jeu est quand même à l'origine de toutes les autres licences 3D qui va y avoir derrière, voilà. Et que tout part de là, et que pourtant il y a beaucoup de licences 3D qui vont complètement s'émanciper aussi volontairement.
Qui vont même aller dépasser.
Voilà, qui vont éclipser, même, on peut dire. Hein, parce que Virtua Fighter aujourd'hui, malheureusement, est une série qui est quand même très transparente.
Complètement. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour cette communauté, et c'est vraiment c'est très important parce que je répète que cette licence a apporté énormément de choses dans les jeux de combat, elle est passée complètement à côté du grand public.
D'accord.
Et donc pour terminer, il y a un petit point, c'est qu'on parle de... Non, ça va être très court. On parlait donc d'influence. Bah, il suffit que deux des personnes qui ont participé à Virtua Fighter, c'est Seiichi Ishii et Tolo Ikebuchi, se sont barrés chez Namco et ont fait Tekken.
Et on fait Tekken, tout à fait.
Et on fait Tekken. Ils se sont barrés après le 1, c'est ça ?
Oui, pile poil après le 1.
Pile poil après le 1, ils sont partis et c'est eux qui ont fondé.
Street Fighter, Fatal Fury, tout deux, ça. Les deux se barrent de Namco juste après, ils font Dream Factory et ils font Tobal.
comme on a vu avec Capcom, SNK et les autres éditeurs, ouais. C'est la même chose. En fait, ils sont à l'origine d'eux et ils ont apporté après leur pierre à l'édifice dans d'autres domaines.
Un gros turnover de partout. Par turnover. Contre, là, ça fait 5 fois que vous me dites juste pour terminer. Mais, alors, c'est vraiment le dernier pour terminer.
Ouais, parce
qu'on
termine le premier tout court. On parlait très rapidement de Virtua Fighter Remix, qui est donc le premier remixé avec des effets de texture sur les personnages. Donc là, on a plus seulement des couleurs, mais
c'est plus juste des polygones, voilà, et des textures
les vêtements ont un grain, etc., qui est sorti après Virtua Fighter 2. Ils ont eu besoin du coup de ressortir le premier qui avait une identité propre par rapport au deuxième, en disant voilà, on le met à jour parce que du coup le premier est déjà l'année d'après complètement dépassé. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle évolution rapide en l'espace d'un an dans l'ère 3D que voilà, il fallait qu'ils se mettent tout simplement à jour. Et ce jeu du coup n'a pas été adapté sur autant de plateformes que le premier, parce que le hardware était devenu vraiment trop puissant. Tout à fait, exactement.
Bon, je crois qu'on a dit, j'espère que c'était pas trop brouillon, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce jeu que c'est très difficile.
Voilà.
C'est très difficile de réussir à condenser tout concernant Virtua Fighter, parce qu'en fait, c'est un peu comme... Il n'y a pas autant d'expertise, j'ai l'impression, et de travail qui a été fait sur Virtua Fighter que Street Fighter 2, qui lui pour le coup a vraiment été analysé, décortiqué. Virtua Fighter, ça a l'air d'être plus, c'est la même situation en fait de la 2D et de la 3D, sauf que j'ai l'impression que Virtua Fighter c'est plus dur de
la petit 1 et petit 2. En fait, il y a une profondeur, et là c'est pas du tout pour critiquer le jeu de Capcom, il y a une profondeur dans Virtua Fighter qui est bien plus abyssale que celle de Street 2, c'est-à-dire que Street 2, premier du nom, tu peux en faire le tour. Virtua Fighter, pour en faire le tour, mais c'est un investissement.
D'accord. Okay. Eh bien, écoutez, merci messieurs. Donc, j'espère que si vous nous écoutez là, vous avez appris beaucoup de choses et que ça vous a plu. Donc, merci Wellcook, merci TMDJC, merci Hatsal. J'espère que cette première venue dans les podcasts t'a fait plaisir et qu'on te reverra pour Virtua Fighter 2.
Ouais, on en quittera le 2 et le 3, je pense.
Oui, le 2 et le 3. Très bien. Alors, le prochain podcast, ce sera très certainement Samurai Spirits.
Ah, arrête de faire des annonces.
Ouais,
mais on arrive à les tenir, ceci dit.
On arrive à les tenir, ceci dit. Eh ben, merci de nous avoir suivis. Merci à tous les trois pour votre présence et votre analyse.
Par contre, Isonia, il pue.
Et on se dit. Et on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine, donc, pour un nouveau podcast, probablement, sur Samurai Spirits.
Bisous, tout le monde.
Bisous, salut.
Bisous.
Terminer le podcast, c'est normal. On a oublié, en fait, on a coupé, on a fait zut, on a oublié ça. On a oublié de parler des replays.
Mais ouais,
dans le jeu.
Atal, dis-le, parce que c'est le premier jeu, vas-y.
Vas-y, Atal, vas-y.
C'est le premier jeu qui marque ce qui va devenir une constante dans tous les jeux de baston 3D. Quand vous terminez votre round, vous avez un replay de ce qui vient des dernières secondes, des six, je crois que c'est 5 ou 6 dernières secondes du round.
Bah ouais, voilà. comme à la télévision, comme tu regardes une action sportive ou etc. C'était pour renforcer le truc, t'avais le replay. Et putain,
dit, histoire de frimer si t'as gagné et d'humilier celui qui a perdu.
Et c'était comme vraiment, vraiment le premier jeu à proposer ça.
D'accord. Bon bah voilà, c'était le point technique qu'on avait oublié.
Le bonus.
Merci d'avoir écouté le podcast.
À chaque fois maintenant qu'on fera un podcast, on aura le bonus derrière ce qu'on a oublié.
Allez, merci de nous avoir écoutés. À plus.
Salut tout le monde.